Pas mal ce petit hip-hop à l'ancienne là, de Dessous les Fagots que je vous ai trouvé ce matin. Je suis arrivé un petit peu en avance au studio, je me suis mis, je sais pas, une petite dizaine de nouveaux titres qui serviront à autant d'intros sur cette chaîne où on fait de la revue de presse. Hein. Vous savez que... Tiens, qu'est-ce qu'il me fait à la table de mixage là? Viens par là toi. Voilà. Vous savez que c'est une chaîne essentiellement dédiée à l'information. Hein. De l'info, de la revue de presse. De loin en loin, pas souvent, rarement, un peu de gaming. Par-ci, par-là, comme ça, vite fait. Tiens, moi, j'ai des petits yeux, moi. Des petits yeux, non? Ah oui, il y a eu un simple hier. Oh, qu'il était bien. Ce serait bien un peu plus de gaming. Suga, je trouve que tu as raison. C'est vrai que cette chaîne délaisse un peu le gaming en ce moment. Au détriment de l'information. Sarah me dit, qu'est-ce que j'ai ri hier soir? Mais moi aussi. Mais il m'a fait... Mastu ? Mais il m'a fait tellement rire. Merci Tangerine Nightmare. Merci pour le 28e mois. Merci Neosray, merci Léo, merci MBG, merci Éclair et Ruka. Merci Wololo, merci Finarel, merci Kenshu. Ceux qui ont sub pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait. Ah là là, le Mastu hier soir. Mon nouveau top 1 des samplays, me dit Sarah. Ah là là, j'ai passé une tellement bonne soirée. Il est tellement gentil. Mais Théo, il est tellement gentil. Même ma mère s'est mise sur le live, n'en pouvait plus. Oh, c'était drôle. Moi, je le connaissais pas bien. Je regarde depuis ma salle de classe pour pas rater le début du live. Mais Milano, mais Mafia, mais enfin. Mais l'école, c'est sérieux, enfin. Il dit, bonjour, j'ai adoré hier ton passage dans ces médiatiques, elle s'appelait avec Mastu. Mais tout ça, tout était bien. Triple stream hier, baby. Hein, on a fait. Eh, c'était une belle journée hier. Hier matin, on a fait quoi? Pourquoi triple stream? Non, double. Pourquoi je dis triple? Non, triple, si, triple. C'est médiatique 1. Les coulisses de C'est médiatique, l'émission sur les médias sur France 5, je suis invité, bam, le stream. Vous l'avez en replay sur Twitch, sur YouTube. Dans l'après-midi, un petit stream avec Sunny, Mademoiselle Sunny, qui participait à un événement caritatif et qui était hyper sympa d'ailleurs. Et parmi ces donation goals, il y avait se faire coacher par le grand, non, le nul, Samuel Etienne sur Valorant. On a rigolé comme des baleines. Voilà. En 2 heures, elle était à meilleur niveau que moi en 2 ans. Et puis le Mastu, hier soir, sur Wii Party. Mais quelle fête! Merci de l'extra Tovic. La musique des 12 points, merci pour le 31e mois. Mais quelle fête, ça me plaît avec Mastu. Mais tout était drôle, l'intro était drôle, les échanges, le roleplay qu'on s'est fait en faisant mine de s'énerver un peu tous les deux. Mais quel bonheur en vrai. Merci Coton pour ce 4e mois que j'avais pas vu. Merci Coton. Bon voilà, et puis aujourd'hui, j'aurais pu faire un triple masterclass du rire, oh oui. Et le jeu oublié pour commencer, ouais. J'aurais pu faire 3 streams aujourd'hui. Merci Quick222, tu régales. Tout ça c'est en replay. Hein. Pour une exclamation, samplay, S-A-M-P-L-A-Y, vous avez tout. Merci Coton, tu régales. Vous avez tous les samplays. Vous avez 56 samplays en 2 saisons. Vous avez tous les replays. Voilà, depuis l'an dernier. Et on pourrait faire 3. On aurait pu faire. Mister V, ouais, c'est prout. On aurait pu faire. 3 streams, on en fera que 2 aujourd'hui. Pourquoi? Ce matin, revue de presse. Ouais. Truc dans les journaux ce matin. Non, 56 samplays, ouais. Déjà, c'est fou. Hein. 54 plus 2, parce qu'il y avait eu 2 before de 2 émissions test qui sont faites des samplays. J'en ai aucune idée à Frios. Je sais pas, mon ami. Ah, je suis désolé. Je crois pas qu'on a un point d'exclamation chaise pour répondre à la question d'Afrios qui veut savoir quelle est cette chaise. Alors, c'est une secret lab, mais laquelle, je ne sais pas. Et donc, ce matin, revue de presse. Ce soir, il y aura du... Je crois... Oh, il n'y en a pas, je crois. C'est une Secret Lab Titan Evo. Merci Sugar. Bon bah je vous le mets. Attends, bah, attends. Je vous fais le bot, je vous fais le bot. Grâce à Sugar. Secret Lab Titan Evo, c'est ça? Let's go. T'es en forme, Sarah, j'adore ça. Tu me régales là. Hop, alors attends, on va faire new command, point d'exclamation, chaise. La chaise de Sam. Deux points. Secret Lab, Titan Evo. C'est écrit comme ça? Comme tu me l'as écrit, pile poil? Fais voir. Bah, je suis très content, Sarah. En vrai. Secret Lab, Titan Evo. Ouais, c'est ça que c'est. Tu l'as écrit exactement comme ça s'écrivait. Édition nanogène. Mais comment tu sais tout ça? Mais Sugar, comment tu sais tout ça en vrai? Salut Camille, comment tu vas? On est heureux de t'avoir avec nous. Comment tu fais ça? Ah, c'est celle-là, voilà. Il n'y a pas de photo un peu générale là? Ouais, moi j'ai pris en blanc, quoi. Voilà, on la retrouve là. Ouais, t'as raison. Warrior, bonjour Samuel, comment vas-tu? Je te découvre sur Twitch. Nous étions à Saint-Vincent ensemble, on était à l'école ensemble. Warrior, tu régales en vrai. On était dans la même année. Au lycée, un an ou deux ans de différence, c'est énorme. T'es en seconde, t'as parlé à un terminal? T'as parlé à un terminal hier dans la cour, mais t'es un. Waouh, quoi! On était en classe ensemble ou pas? Là, si vous êtes point d'exclamation chaise, vous avez la chaise. C'est pas une OP, hein, je l'ai acheté, hein, donc je peux pas vous mettre le lien non plus. Voilà. C'est trop mignon que quelqu'un ait été dans ma. Car tu. Hein? Quoi? Quoi? Hein? Sugar, il a installé des caméras chez toi, c'est pour ça? C'est trop mignon. On était en classe ensemble ou pas? Le monde est méchant? Bah, fuyons les méchants, fuyons les méchants. Il y a des gens qui nous veulent du bien dans ce monde, il s'agit juste de les trouver. Salut, gogo gadget au flop. Force et ça va mieux. Hop, 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 hop. Un petit CDI qui débute chez Gogo Ghetto Flop. Ça fait plaisir. Bravo à toi, bravo à toi. Putain, il y a trop de bonne humeur en ce chat le matin, ça fait plaisir. Salut Firmuche, merci pour ton message, merci pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Gogo Ghetto Flop, j'avais pas vu en plus au 3e mois. Merci Kyolin, j'espère que je prononce bien, merci pour le 6e mois. Quick 222, l'extratovic et Coton encore, merci. Nous on te veut que du bien, merci à Frios. Ah, ça change de Twitter. Hein. Vous êtes trop gentil. Ah non, X maintenant. Non, je rigole, je te connaissais pas du tout, désolé. Oh, Warioff! Qui m'a trollé, Warioff qui arrivait tout à l'heure. Oh, Samuel, on était ensemble à l'école Saint-Vincent. J'étais trop hype. Et maintenant, ils ont dit quelle classe, quelle année, tout ça. Et ça donne. Non, je rigole, je te connais pas du tout, désolé. Ah, putain! Le ban def. Ah, oh, les trollers, je me suis fait avoir. Oh, tain, le troller qui se fait avoir par un troll. Yo, les Samzouz. Samzouz, non. Hein. La mec in is back a raison sur Yo, les Samzouz pour ceux qui n'étaient pas là hier soir avec Mastu dans Samplay, le replay obligatoire. Mais ça c'est ok, mais les Samzouz, non. Hein. Oh, si, par pitié, que cette communauté ne s'appelle pas les Samzouz, quoi. Par pitié. Merci Diesel pour le 33e mois d'abonnement. Les Chibrax, ce que vous voulez. Les petits cafés, les Sam. J'entends parfois les gens qu'on raide les Samuelos. Les Samuelos, les Samuelitos. Mais les Samuels, les Samzouz, ah non. Ah bah ça marche, alors ce sera les Samzouz. Ah non, par pitié. Ah non, ne nous mettez pas dans cet univers-là, quoi. Ah non, 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 non. Tiens, par la télé ce matin, j'ai trouvé un article sur le départ d'Olivier Mine de France Télévisions. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Moi, je quitte le chat si on s'appelle comme ça. Moi, je ferme la chaîne si on s'appelle les Samzouz en vrai. Oui, cette chaîne a raison, c'est une chaîne sérieuse ici. Les Samzouz. La Sam Comumu. La Sam Comumu. La Sam Comumu. C'est mignon. Coca-Zéro à 9h13, ouais. Bah, j'ai arrêté le café, alors il me faut de la caféine, quoi. Les Samoulettes. Les Samambiances. Les Samolitos. C'est vrai, les Salmonelles. Les Samolitos, t'as Pouli la raison, c'est vrai. Hein. Les Samuelou. Le Coca. Oh, pff, de toute façon, j'ai un bon hygiène de vie. Hein. J'ai arrêté le café, ça fait plus de 5 mois, peut-être 6 mois maintenant, ouais. Les Yakuza. Les Samioches. Les Samioches. Les Samaranges. La Samunauté. Les Samoilou. Les Samoilou. Les Samoilou Kloussoa. Les Samsam. Les Sam que cela ne tienne. Po, 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 po. Les Sam va bien. Les petites beautés. Oui, les petites beautés. Ah, j'aime bien les petites beautés. Ah ouais, je pourrais commencer mes streams en disant salut mes petites beautés. C'est pas con ça. Ah ouais, j'aime. C'est... En plus, c'est, ça sonne bien. Les Sam le pompier. Les Sam. Les Sam boobs. Hein? Quoi? El Pistolero nous a proposé les Sam Boobs? Je suis pas sûr là, sur les Sam Boobs là. Les Sami, comme Sam et Ami. Les Samoador. Tu vois, les Sam, Samoador, j'ai la ref. C'est le vieux fromage là, des années, je sais pas quoi là. C'est Hanouna les petites beautés? Oui, Morsi Star. On est très troll ici, on le savait tous en fait. Les gens qui disent ah non, c'est pas possible, c'est Hanouna. Alors on est très trolleur ici, donc tout le monde le savait. Voilà. Tu vois, là il y a toi, là il y a la blague, et la blague est fait comme ça, tu vois. Les Samoussa, les Samoussaka. Vu que t'es Monsieur Chib, on pourrait dire les couilles. On est des petits trolls malicieux, exact. Les Samantables. Ah, je kiffe. Ah, vous êtes en forme, hein. Ça fait plaisir, hein. Les Sam Coca... Oh, Sam... Oh, les Sam Cocaï. Mais bien sûr. Les Sam Cocaï. Mais bien sûr.
Rejoignez gratuitement le programme de fidélité...
Ça, c'est de la pub.
...pour profiter d'un service prioritaire...
Les gars, les plus vieux, les plus jeunes, vous connaissez pas. Les plus vieux, vous connaissez. C'était énorme. C'était Sam Cocaï. C'était la série. Tout, 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 tout. La princesse, ça. C'est un peu le Star Wars, mais Wish, tu vois. C'était un Star Wars. C'était un. Tu sais pas ce que c'est en fait. Donc San Kukai, voilà, c'était c'est un vieux truc à nous, quoi, les vieux, voilà. Et du coup, on pourrait être les Sam Kukai. Oh, les Sam Kukai, c'était avant Bioman, tout ça, ouais, bien sûr, ouais. C'est un vieux truc, ouais. Qui connaît encore Bomber X? Si j'ai Benny la crevette, j'ai pas la ref. C'est quoi le rapport avec le bateau dans l'espace au début? On sait pas trop, mais il y avait un bateau dans l'espace, ouais. C'était un vaisseau, en fait. Puis il y avait une espèce de princesse avec les cheveux jaunes. C'était... Puis il y avait deux gars un peu en collant, si tu veux, qui faisaient des roulades dans le ciel et qui se bagarraient avec des monstres qui avaient des sales masques et tout. C'est un cocaï. Allez, on se met en mode nuit de la culture. On va faire un petit Wikipédia là, sur Sengoku là, parce que là j'ai trop envie d'en savoir plus. Sengoku est une série de science-fiction, bon ça on a compris, japonaise à transformation, Henshin. Donc à l'origine c'est un manga, parce qu'il y a un concept original qui a été pensé par un mangaka qui s'appelait Shotaro Ishinomori, okay, diffusé de 78 à 79 sur TV Asahi au Japon. Donc. Et puis c'est arrivé en France. C'est la deuxième série télévisée japonaise non animée à être diffusée en France après La Légende des Chevaliers aux 108 étoiles, je ne connais pas ça. Programmée, là ça nous intéresse, c'est chez nous, à partir de 79 sur Antenne 2, dans l'émission Les Moins de 20 ans, et les autres. Ensuite dans Récréa 2, à partir de 80, puis sur M6. Voilà. En fait, moi j'ai connu ça sur Antenne 2 à l'époque, 79-80 quoi. Et 79-80, j'avais 8-9 ans. Voilà. Et j'étais... c'était folie. Et c'était folie. Mais non, j'ai pas 18 ans. C'est fou, ça. Éric Chardin a composé la musique pour le générique français. Alors, il y a une histoire avec... Est-ce que c'est un espèce de... Est-ce que ce truc aurait inspiré Star Wars? Il y a des espèces de légendes là-dessus. Peut-être qu'ils en parlent. Alors, l'article n'en parle pas, mais... Il y a des histoires... Il y a histoire de... Certains disent que... Il y a des trucs. Ah, c'est l'inverse. Comment Star Wars a donné naissance à Sengoku? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Quoi? Ça, c'est fou. Star Wars a inspiré la série. C'est l'inverse. En 77, le premier volet de Star Wars voit le jour aux États-Unis. Donc, c'est bien avant. Et révolutionne. Le cinéma de science-fiction. Mais celui n'est pas immédiatement diffusé au Japon. Donc c'est diffusé en 78. Ouais. Un an après le triomphe aux États-Unis. Voilà. Et ce retard va faire du coup qu'ils vont sortir, les Japonais, leur propre film Les Évadés de l'espace. Voilà. Et en fait, ils ont Les Évadés de l'espace, ça a pompé Star Wars. Mais Les Évadés de l'espace, du coup, c'est Sengoku. Ah non, c'est une série produite à la suite d'un film, Les Évadés de l'espace. En fait, il y a eu un Star Wars japonais qui s'appelle Les Évadés de l'espace. Et après, ils ont fait la série. Putain! Christéo, on t'envoie un max de force. Je n'ai pas eu l'occasion de croiser ton papa. Mais je pense bien à toi et à ta famille. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Christéo qui a perdu son papa. Donc pourquoi il y a une série? Merci pour tous les cœurs à Christéo, vous êtes gentils. Si l'œuvre japonaise, le film, donc le Star Wars japonais, rencontre un certain succès au Japon, les décors et les effets spéciaux ont représenté un budget important pour la production. Ça aura coûté un bras, quoi. Et la prod a décidé de rentabiliser les éléments de déco et a décliné le film en une série Sengoku. C'est pour ça qu'il y a un espèce de truc qui ressemble à Chewbacca à un moment, là. Incroyable! Ok. Et alors, attends, allons voir Les Évadés de l'espace, ça ressemble à quoi? Attends, hey, imagine, on arrive à trouver un trailer des Évadés de l'espace. Attends, qu'est-ce que tu m'as mis, là, Sugar? C'est drôle. Qu'est-ce que tu m'as mis, là? Qu'est-ce que j'ai commis comme bêtise?
Kukai.
Attends, c'est un vieux truc, ça, c'était au début de la chaîne, ça. C'était... Non, c'est ici. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie?
Imaginez. Sengoku. Sengoku. C'est la bataille. C'est la bataille. Sengoku. Sengoku. C'est la bataille. C'est la bataille.
Ah oui, je connais ce gars. C'est le gars qui faisait les effets spéciaux pour Sengoku. Ça, c'est la reconstitution d'une célèbre bataille intergalactique Le mec, c'est le truc qui, je le connais. Il est beau gosse en vrai. Et c'est un documentaire qu'on avait regardé ensemble et il nous montrait comment. C'était pas quand tu préparais le matos pour partir? Si, peut-être. Je pense que c'était quand je paquais mon matos pour le The Event, ouais.
Vous connaissez pas? Ah, vous connaissez pas? Ah, c'est pour les plus vieux, ça. Ah, les jeunes, vous savez pas. C'est un Kukai! Non, vous connaissez pas? Regardez, c'est un petit vaisseau. On a un petit vaisseau. Ennemi. Non?
Je pense que ce mec prend des substances, quoi. Je crois qu'il n'y a pas trop de... Trailer, les évadés de l'espace. Imaginons, on trouve un trailer de ce film japonais, espèce de Star Wars Wish japonais. Ce serait ouf en vrai. Ah ouais, j'ai.
Première fois que j'ai goûté cette tige de...
Les pubs sur Google, c'est... Il y a un truc... Attends. On peut la refaire? Ah, on ne peut pas la voir. Attends, mais les pubs sur Google, c'est... Première fois que j'ai goûté cette... T'as un mec, il bouffe de l'herbe littéralement, là, il y a une vidéo.
Le berce. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible?
Les bruits de bouche, c'est... Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fait?
Qu'on ne connaisse pas quelque chose d'aussi bon.
T'es en train de bouffer le champ, quoi.
Mais pourquoi est-ce que...
Dans 30 secondes, le mec, il va manger un lapin vivant, quoi. Il a le micro dans la bouche.
On n'utilise plus les plantes sauvages.
Ce mec, il a une tête à manger des lapins vivants.
C'est pas raciste.
À un moment, on va le voir courir dans l'herbe, il va sauter dans un forêt, on va rien comprendre, il va sortir, il aura un lapin dans les dents.
Rationnel, quoi. C'est vraiment...
Je le colle.
Ça, vous me diriez, j'en suis sûr, c'est la tige. Ben non, c'est pas la tige, c'est un pétiole.
Donc ça, c'est la tige. Et non, c'est un pétiole. Et oui, excuse-nous. Oh, c'est mieux que tout ça.
L'alimentation de l'occidental moderne.
C'est vrai qu'il a l'air en forme en vrai. Je vais changer mon régime alimentaire. Moi aussi, je vais manger des lapins vivants et des herbes que je vais ramasser au pif. Merci Kuro et de Penguin pour le soutien. Merci Rebelle de Cassette pour le Prime. Merci. Merci à tous les deux.
Normal est carencé, mais le plus
important. Bah oui, oui, oui.
Intéressant pour nous, c'est l'apport en micronutriments. Eh bien, les feuilles vertes, ouais, des plantes sauvages.
Vas-y, tu manges de la terre. Laisse-moi mon McDo, quoi.
En sont, à mon avis, la meilleure source qui soit, même par rapport aux légumes cultivés. J'ai vu que dans mes épinards, il y avait du kénopode qui poussait. J'ai vu que dans ma laitue, il y avait de la...
C'est quoi ce truc
poussait. Puis après, je me suis un peu documenté. Les kénopodes.
C'est une secte.
C'est comme des épinards, mais c'est sauvage. Et j'ai goûté, c'est vachement bon. La stellaire, c'est comme la laitue, ça se mange en salade, mais ça pousse tout seul. Donc résultat, j'ai arrêté de cuire.
Un mec qui mange des pétioles, moi je me méfie. Qu'est-ce
qu'il fait, quoi? Voilà.
Moi, je veux connaître la chute de cette histoire.
Pour nous, c'est une mauvaise herbe. Eh bien, sachez qu'au Japon, la bardame, c'est le légume racine numéro 1.
Ça dure combien de temps?
Comment est-ce que ça se fait que dans nos légumes cultivés, il n'y en a pas.
Mais attends, ce mec va désherber la terre. Il arrête pas de manger toutes les herbes. Merci la cantine, comment vas-tu, mon ami? Mais. C'est un désherbeur.
Un qui soit aussi fin, aussi délicat, aussi goûteux que cette tige de berce. J'aimerais que vous soyez avec moi pour partager ça. Aujourd'hui.
attends, j'en peux plus de cette vidéo, j'adore.
Je vais vous parler d'un arbre. Parce que, figure.
C'est bientôt fini, ça dure que 2 minutes.
Et vous, les arbres, ça se mange aussi.
Le mec mange les arbres. Mâchoire de fer. Iron Joe.
Pour réussir, d'une façon générale, il faut de la motivation.
Vous voyez la tarte, là, c'est une tarte à l'arbre, ça. Ça, c'est une tarte de peuplier, c'est très très bon.
Il faut de la méthode, et ensuite, il faut du travail. Alors, la motivation, vous l'avez. La méthode.
Mais pas du tout, je veux pas motiver pour manger de l'arbre.
Ben, j'espère pouvoir vous la transmettre. Après, il y aura du boulot, hein. C'est pas fini. Voilà.
En vrai, il est drôle. télécharger la liste ultime des 5 plantes sauvages comestibles. C'est quoi cette histoire? C'est une secte, non? Moi, je pense que c'est une secte. Hein. Bon, donc tout ça pour voir le trailer de ce Star Wars japonais que les Japonais ont sorti au même moment finalement que le Star Wars qui serait donc un peu une copie. Alors là, découverte, j'ai envie de dire, bon, bande de beaux gosses. Hein. Ok, let's go YouTube, c'est parti. On est à fond là. Et on dit la musique de Clair Obscur, pop, 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 banger. Et ça déconne pas au Japon dans les 70, hein. Let's go le disco. Wouh! Wow. Ça. Oh. Le vaisseau de l'espace, on retrouve l'univers de Sankukai.
Hey, give me another drink.
Yes.
Un R2D2 en plastique gonflable. Ah ouais. Oh là. Attends. R2D2, mais vite fait, quoi. Vite fait. Je pense que le réel avait des enfants. Faites-moi un robot rapidement l'après-midi là.
Hey, give me another drink.
Yes.
Ah, les copieurs, les Japonais. Rappelons que Star Wars vient de sortir aux États-Unis. Ils sortent ça, quoi. Putain.
Hey babe, you better watch your voice box, or I'm gonna...
Dark Vador. Ah lui c'est un méchant. Je pense que c'est un méchant lui. Ce petit Star Wars japonais là. Et donc, bon, d'où on est parti, comment on appelle la communauté des Sam? Quelqu'un a dit on pourrait les appeler les Sam Kukai. Ça nous a ramené à San Kukai. On a appris que la série San Kukai était un dérivé de ce film Les Évadés de l'espace qui avait été créé dans la foulée de Star Wars. Incroyable, voilà. Ah, oh, c'est fou. Ok, on nous voilà plus avant. C'est fou, hein. Voilà. Voilà, maintenant on peut mourir tranquille le plus tard possible, exactement, de Grete Boisco. Peut-on parler de la... Non, non, la maquine, on ne peut pas parler de ça ce matin. Non, là on est sur une chaîne sérieuse, là. Non, on ne parlera pas de ça ce matin. Don Diplomatico, merci pour le 27e mois. Azel Show, merci pour le 7e mois. Vous êtes formidable. Bon, on est de bonne humeur ce matin. Je vous abandonne à 9h. Non, à 9h c'est trop tard, non. Je vous abandonne à midi ce matin, parce que j'ai un rendez-vous avec l'équipe de questions pour un champion. Après, je vais chez les amis de Fremantle pour enregistrer les petites vidéos. Après, je reviens cet après-midi. J'aurais pu faire un stream cet après-midi, mais ça va être trop court parce que j'emmène lundi mon petit Solal, le petit dernier chez l'orthophoniste, comme tous les lundis. Donc, je streamerai pas cet après-midi. Et par contre, ce soir, je vous ferai un petit stream. De gaming solo sur Call of Duty. Because le commandeur Gotaga est venu il y a quelques jours dans Simplay pour me faire découvrir l'univers que lui connaît et a beaucoup pratiqué de Call of, avec notamment le Call of Duty 2, un des plus. Celui que lui a découvert enfant, quoi. Ensuite, le Call of, là. Attendez, faut que je vous Steam. Faut que je vous Steam, parce que du coup, j'ai tout retéléchargé sur mon PC. Donc, avec Gotha, on a joué à Call of Duty 2, le vieux, là. Ensuite, on a joué à Call of Duty Black Ops 1, voilà, avec le mode zombie. Et on a joué aussi à Call of Duty 6, le dernier, voilà, rapidement. Et donc, j'ai retéléchargé les trois jeux sur mon PC ici. Et là, on va ouvrir un nouvel arc, un petit arc à la cool. Voilà, Call of. On va lancer ce soir le plus ancien, le Call of Duty 2. Alors, il y a un 1, mais ce Gotha, lui, l'avait découvert le 2, donc celui-ci. On va y jouer un petit peu. Dans les prochains jours, on va essayer d'explorer ces trois jeux pour que je mette un petit peu à niveau sur ces jeux. Et puis, il y a un moment, je vais répondre à la très gentille invitation de Corentin de Gotaga, qui m'a proposé qu'on refasse du mode zombie ensemble. Il est trop gentil comme garçon. Et donc, l'idée, c'est de me familiariser un petit peu avec le jeu avant de lui imposer un duo pour aller buter du zombie, quoi. Voilà. Donc, ce petit arcounet, là, débute là ce soir. Voilà. Donc, ça, on commence ça ce soir vers. Pas trop tôt. 21h30, quoi. Après la famille. Voilà. Et je n'oublie, attendez, hein, avant que quelqu'un m'en parle, je n'oublie pas Clair Obscur. Hein. Alors Clair Obscur, j'ai un vrai amour pour ce jeu, le jeu est magnifique. On va relancer du Clair Obscur, hein. J'ai déjà fait 3 streams sur Clair Obscur. Call of, là je suis obligé de le faire parce que Gotha est passé à la maison, c'est un impératif. Mais on n'oublie pas Clair Obscur et ça va relancer du Clair Obscur. Hein. Ouais. Et The Witcher, mais oui, aussi, mais oui, et The Witcher, et Valo, et PUBG, et Red Dead... Et j'en passe. Eh oui. Multigaming, baby. Eh oui. Et revue de presse, eh oui. Et Cyberpunk, eh oui. Et GTA, RP, ouais. Et Party Wii. Et Rocket League. Eh oui. 56 jeux découverts sur cette chaîne. En 2 ans, bah, forcément. Eh oui, il faut terminer les jeux, ça. Mais c'est impossible, Taïa, bordel. C'est impossible. Même si je ne dormais jamais, c'était impossible, peut-être. Et Chain quoi ? Non, ce jeu n'existe pas. Chain Together ? Je ne connais pas. Non. Chain Together ? Non. Je crois que c'est un jeu qui n'existe pas, ça. Non, je ne crois pas. Non, je ne connais pas. J'ai entendu parler. Chain Together ? Non. J'ai entendu parler de ça. Bonne journée d'école, Démonor. Ah, je peux pas aller au bout des jeux, les gars. Je consomme ma vie sur l'autel du jeu vidéo actuellement. Politique Simulator, c'est drôle ça. Ultimate Godspeed ? Non, on connaît pas. Elden Ring, relancer Elden Ring un jour pour aller taper du boss, ouais, c'est en vrai, ouais. Tu vas nous streamer GTA 6 quand il va sortir ? Ah bah, alors là, voilà, à la minute, à la seconde, à la Upgun, tu connais pas. À la seconde où on peut lancer, streamer du GTA 6, à la seconde, je suis dessus. Hein. Je m'en fous, c'est le matin, si c'est le midi, si c'est l'après-midi, si c'est le soir, si c'est au milieu de la nuit, si c'est pendant les vacances, si c'est un 1er mai, si c'est un jour d'enregistrement de questions pour un champion, je m'en fiche, je stream. Voilà. Si ça tombe un jour de tournage, je décale le tournage. Je dis, les gars, je peux pas. T'es malade, il y a un problème, un décès. Non, plus grave. Je peux pas. La date de GTA 6, c'est une date où je ferai rien d'autre. Je peux pas chez GTA. Ah, c'est pas un mensonge. Ah non, là je troll pas par contre. Là je troll pas. Ah bah non. Ah non. Ah non, moi GTA 6, c'est. Non. À la seconde où ça sort, c'est streamé quoi. Ah bah non. Ah bah oui. Arrêt maladie tranquille. C'est bizarre. GTA 6 est pourtant l'un des symboles de l'impérialisme et du capitalisme américain. Nous dit Platon 16-200. Tu viens d'écrire ça sur Twitch, dans le chat de Twitch, plateforme Amazon, société américaine. Tu viens d'écrire ça sur Twitch, un streamer qui boit du coca. Ok, tu l'as fait. Tu peux le virer de ta to-do list. Allez, on y va. Revue de presse ou pas? Non mais Twitch, c'est des communistes, il se passe pareil, TSDF? Oh, je sais pas. On y va ou pas? Petite revue de presse, les baby? Let's go, Summer? Non, Valo? Non, revue de presse matin. Je peux pas, j'ai GTA. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. À midi, je vous quitte. Jusqu'à ce soir. Et c'est parti pour la revue de presse. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Il y a du pape, il y a de la SNCF. Il y a du gaspillage alimentaire, il y a du marathon, il y a du Olivier Mine, il y a du Gaza. Je crois qu'on va commencer par ça. Ouais. Moi, je suis de ceux qui ne veulent pas qu'on oublie ce qui se passe dans la bande de Gaza. Voilà. Hein, donc le conflit dur. Et du coup, certains peuvent avoir tendance à oublier. Et on n'oublie pas. Voilà, c'est à la une du Monde. Non pas la dernière édition du Monde, mais le Monde daté de samedi dimanche, je crois, mais je suis allé le chercher. Et l'Ukraine, c'est pareil, on continue à en parler, Yougas. Hein. Je pense que c'est sans doute la chaîne Twitch où on parle plus de l'Ukraine ici. Donc Yougas, tu ne me feras pas un procès sur ce sujet. À moins que tu n'aies vu aucun stream de cette chaîne sur cette question. Sinon, replay, baby. C'est Adrien Maniel qui va remplacer Olivier Mine. T'as l'info, c'est fresh? C'est tombé? On y a enfin, c'est à l'heure, ok. Yuga, je suis nouveau. Ah bah alors, Yuga, avant d'écrire, il faut que tu tapes les 5 ans de replay de cette chaîne. Et après, tu pourras voir qu'effectivement, bah, on a parlé, je pense que c'est la chaîne qui a le plus parlé de l'Ukraine sur Twitch. Voilà. Et sans doute du Proche-Orient aussi. Allez, let's go justement. Là, c'est le sommaire. On va à l'essentiel. Je vous montre la une du Monde. J'espère qu'elle marche en capture, la une du Monde. Hop. C'est la une du Monde. Pas la dernière édition, c'est l'avant-dernière, mais je trouvais important d'aller la chercher. Ok, ça, c'est le Monde de vendredi. C'est la une du Monde de samedi, je crois. Ok, je vous montre ça. Tac. Ah, il veut de la capture d'écran. Mon baby. Je pense qu'il prend. Ouais, c'est ça, il veut de la capture d'écran. Bah, je vais vous le prendre en capture d'écran. Je vous montre ça dans un instant. La une du Monde, c'est Gaza affamé par 2 mois de blocus alimentaire. Hop, je vous fais la capture d'écran en temps réel du dossier. C'est la une, donc la première page et le premier dossier du Monde. Voilà, page 2, une pleine page. De mémoire, la page 3 y est également consacrée. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Parce que le Monde a un truc qui empêche de capturer directement l'appli. Il faut faire une petite capture d'écran. C'est le seul journal qui fait ça. C'est peut-être une petite forme de protection et un petit machin. Ok, je vous montre ça tout de suite. Touk. Et c'est magique. Voilà. Donc ça, on le lira tout à l'heure. Gaza affamé par 2 mois de blocus alimentaire. Depuis le 2 mars, plus rien n'entre dans l'enclave de Gaza. Ni nourriture, ni médicaments, ni carburant. Les Nations Unies estiment que la situation... Waouh, Nightwolf, qui estime qu'on ne devrait pas parler de la bande de Gaza. Comment bien commencer la semaine? On avait besoin de ça. Voilà. Maintenant, tu comprends pourquoi tu es considéré comme utilisateur suspect par les modérateurs de cette chaîne. Depuis le 2 mars, plus rien n'entre dans l'enclave de Gaza. Ni nourriture, ni médicaments, ni carburant. Les Nations Unies estiment que la situation a atteint son pire niveau depuis le début de la guerre. L'article va revenir, vous inquiétez pas. Déclenché par Israël après les massacres terroristes du Hamas de 7 octobre 2023. Les Nations Unies estiment que la situation a atteint son pire niveau depuis le début de la guerre. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, tout recours à la famine contre la population civile constitue un crime de guerre. Donc, on lira ce gros dossier dans Le Monde. Hop, ici, celui-là, on n'en a pas besoin, on supprime. Voilà. Voilà, on lira ça. Voilà. Ça sera le premier dossier sur lequel on se penchera. Ensuite, on ira voir la une du Parisien de ce matin. Hop, hop, ça c'est le Parisien de ce lundi. Et si le prochain pape était Samuel Etienne? Et non, ça n'est pas possible, puisqu'il faut être cardinal, et je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas cardinal. Et si le prochain pape était français, en revanche? Les cardinaux s'enferment à partir de mercredi, c'est l'actualité. Comment on dit? En conclave, non? C'est comme ça qu'on dit? Dans la chapelle Sixtine, pour élire le successeur de François. Voilà. Et il y, y a des cardinaux français qui conclavent, c'est ça? Il ne faut pas obligatoirement être cardinal, c'est vrai? Ah! Ok, merci vieux chien pollué, c'est adorable. Alors je suis pas, pour le coup, je suis pas un grand spécialiste de l'Église catholique, j'avoue, malgré mon éducation dans cet univers-là. Des papabilis made in France, l'élection du souverain pontife démarre ce mercredi. Parmi les Français en bonne place, le Marseillais Jean-Marc Aveline ou le Corse François-Xavier Bustillo. Voilà. Dans un article ce matin, dans un autre journal, il y avait un petit peu tous les favoris. Tous les favoris. Voilà. Donc on va se pencher sur ce dossier. C'est l'une des grosses actualités de la semaine, quoi. On parlera du pape, du prochain souverain pontife. On parlera des comment ne pas le faire, des grèves à la SNCF aussi cette semaine. Il y a un dossier, il y a un article page 10 dans le Parisien qui lui présente un petit peu les enjeux en grève ou sur le pont. Conducteurs et contrôleurs sont appelés par deux syndicats CGT et Sudrail à cesser le travail en cette semaine du 8 mai, le gros pont là, le gros pont. Hein. Si la direction s'attend à un trafic quasi normal sur les grandes lignes, des perturbations sont à prévoir sur le TER et le Transilien. Si vous avez prévu, pitié pas vendredi encore. Ah, vous n'étiez pas au courant? Ah bah si, ça fait un moment qu'on en parle quand même. Moi, mon épouse, elle était totalement embêtée par rapport à ça, parce que ça tombe sur un gros week-end de 4 jours, là, on voulait bouger. Et du coup, bah, on avait prévu des trucs où il fallait prendre le train, bah, on a annulé. Hein. On a annulé, ouais. On a annulé, donc on va aller pas loin, on va rester en région parisienne, en fait. Donc on se penchera sur ce conflit, alors sur les conséquences pour les usagers, mais aussi sur les raisons de la grève. Sur les raisons de la grève, il faut s'interroger pourquoi les cheminots ont décidé ce mouvement. Donc on les entendra et on fera un exercice que je trouve assez intéressant. On va aller voir deux journaux de sensibilité politique différente pour voir leur analyse sur le sujet. Le Figaro, journal considéré comme un journal conservateur, journal de droite. L'Humanité, journal qui ne cache pas son engagement à gauche. Et on ira lire ces deux sujets. Le Figaro, c'est page, c'est là, c'est en une carrément. Hein. Donc là, il y a un ton qui est plutôt pro-usager, vous le voyez. SNCF, les passagers encore victimes du chantage à la grève. Les multiples appels à la grève des syndicats de cheminots menacent de perturber le trafic pour le pont du 8 mai, même si la direction promet une semaine aussi normale que possible. Peut-être que. Attendez, excusez-moi. Laissez-moi regarder un truc. Alors, excusez-moi. Attends. Non, parce que parfois, j'ai des questions dans le chat intéressant. Non, pas de chat history. Non, vraie recherche d'infos. Qui m'a dit ça? Attends. C'était quelqu'un qui me demandait si je lisais un certain journal. Voilà, c'est ça. Alors, oui, Platon, il vient d'arriver sur la chaîne. Donc, c'est lui qui nous a dit, vous savez, tout à l'heure, GTA est pourtant l'un des symboles de l'impérialisme et du capitalisme américain. Vous savez, c'est Platon. Puis après, il a écrit, allez, maintenant, on va critiquer Trump comme d'habitude. Après, il a écrit, je suis de ceux qui ne veulent pas qu'on oublie Gaza. Donc, il me cite, ne t'inquiète pas, c'est très, très loin d'être le cas. La gauche bien pensante, ultra présente sur Twitch, on se régale, là, c'est du caviar. Et d'autres plateformes ne cessent de nous le rappeler. Voilà. Après, il s'adresse à un viewer qui n'a rien demandé. Il lui dit « Attention à bien être à gauche, mon ami, sinon tu ne feras pas long feu sur le chat de Twitch. La gauche tolérante, des gros guillemets, ne supporte pas trop qu'on ne soit pas d'accord avec elle, tu comprends. » Voilà. Et la dernière question, parce que en fait, je m'en foutais de ce qu'il écrivait jusque-là, parce que je t'avoue que je n'avais pas fait attention, c'est « Samuel, tu lis frontières des fois. » Et c'est ce message qui m'a un peu intrigué. « Tu lis frontières. » Et je me suis dit « Alors frontières, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. » Alors, c'est pas un quotidien national. Voilà. Tu t'en fous, mais tu lis tous mes messages. Bah oui, parce que là, c'est de la régalade, ce Platon. Parce que nous aussi, on aime ça. On est un peu ici pour le divertissement. L'entertainment. Là, t'es en one-man show, si tu veux. Et donc, alors, frontières, ça me dit quelque chose. Alors, du coup, je suis allé voir. Parce que moi, je lis pas frontières. Je sais pas ce que c'est. Frontières, anciennement Livre Noir, est un média d'extrême droite français. Créé par, je connais pas ces gens, voilà, affichant une orientation conservatrice et identitaire, soutien officieux d'Éric Zemmour, ce média est critiqué notamment pour son traitement de l'invasion russe de l'Ukraine. Ah oui, c'est surtout un média qui nous dit que c'est les Ukrainiens qui ont attaqué ou un truc comme ça, non, je pense. Ok, d'accord. Bon, c'est un combo là. C'est la régalade. On voit, bon, vous irez voir. Ça me disait quelque chose. Pitié que ce soit du troll. Non, il y a vraiment quelqu'un dans le chat qui écrit ça. Ouais. C'est une chaîne très ouverte ici. Hein. Bon, écoute. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est bien parce que je ne savais pas ce que c'était frontière. J'avais vu des tweets là-dessus, mais sans creuser. Bon, grâce à toi, voilà. Le patron de frontière est souvent invité sur CNews, me dit Bren Washer. C'est incroyable, c'est une vraie surprise. Plus sérieusement, reprenons notre revue de presse des journaux sérieux. Hein. Donc, regard conservateur sur cette grève de la SNCF, vraiment le Figaro se met du côté où on voit des usagers, quoi. Et il y a un gros dossier qui est page 22-23. Un édito aussi, à mon avis, de Figaro doit tirer à boulet rouge contre les grévistes. C'est intéressant à lire quand même. Après, on ira lire l'Humanité pour voir deux visions différentes. Voilà, SNCF, l'insupportable retour du chantage à la grève des cheminots lors des grands départs. Donc clairement, le Figaro prend parti pour les usagers contre les syndicats. Et on ira voir l'Humanité, qui n'est pas du même avis. C'est ça qui est intéressant, de confronter le regard de journaux différents. Donc ça, c'est Libération, Samuel, arrête de vieillir, tu fais pitié, on va voir l'Humanité. Hop, kiosque. Alors, l'Humanité, hop, tac, c'est celui-là, je crois. Lire le numéro, let's go. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ça, moi? L'Humanité, c'est page 10, je crois. C'est intéressant, notre échange a révélé des choses là quand même. Hein. Il y a des choses qui s'expriment dans le chat là. Voilà. Bon, Brodini, tu viens d'insulter la communauté, tu prends un petit thé haut, va prendre un petit thé et reviens quand tu seras calmé. Attendez, je m'offre un petit chat là. Et après, on se demande pourquoi je fais moins d'actualités et plus de jeux vidéo. Bah, en fait, il suffit de lire certains, là. Hein, et on comprend, en fait. On est parti à la pêche au gros, là. Hein. Bon, les modos, désolé de vous infliger ça, les modos. Vous inquiétez pas, on fera du jeu vidéo ce soir. Donc, alors, on est page 10, je crois, dans l'Humanité. Désolé, les modos. Semaine rouge dans les transports. Une période de conflit social débute ce lundi dans la compagnie ferroviaire, donc on ira aussi entendre les raisons de ce mouvement social. La CGT et Sud dénoncent une flexibilité accrue des temps de travail et réclament une révision des primes. Il y a Greg qui se régale, c'est mon premier jour sur Twitch, j'avoue je me régale, ça me rappelle les repas de famille de mon enfance. c'est Twitch. Renouet, coucou Sam, continue les revues de presse pour nous, mais courage pour ces énergumènes, merci les modos. Bah ouais, mais c'est fatigant en vrai, hein, de vivre ça aussi. Donc on parlera de ça, on parlera de quoi dans le sommaire. On parlera aussi... Ah, gaspillage alimentaire. Alors, on progresse un peu sur le sujet en France, parce que de temps en temps j'essaie de trouver des bonnes nouvelles aussi, j'ai du mal à en trouver. Hein. Et parfois sur des sujets, il y a des petits trucs, ça va un peu mieux. Alors attention, hein, un peu mieux, ne me faites pas dire qu'on est des bons élèves. Encore trop de gaspillage alimentaire, c'est la une de la Croix, qui nous explique que les initiatives d'associations et d'entreprises se multiplient pour limiter les déchets dans les foyers. Les pratiques évoluent, mais lentement. Donc il y a du mieux, il y a un gros dossier dans la Croix qui nous explique que poussé par les réglementations, associations et entreprises multiplient les initiatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mais avec près de 10 millions de tonnes d'aliments jetés chaque année. La France est toutefois loin de tenir ses objectifs. Alors qu'on peut être encore licencié en France pour avoir donné des invendus à des sans-abri, ce qui est fou ça, faut-il assouplir la loi ? La Croix, excellent journal. Tu as à peine commencé à lire, tu vois déjà que le dossier, il est carré, quoi. Ok, super. Pas mal, ça. Pas mal. GG La Croix. Ok, on lira ça et on lira quoi encore ? On va aller vers des choses un peu plus douces à la fin. Ouais, normalement, on ne devrait pas trop s'écharper là-dessus. Olivier Mine, donc pourquoi on n'a pas le droit de donner des invendus? Très bonne question, on se pensera là-dessus. Olivier Mine, alors ça, on appelle ça le mercato. Le mercato, c'est un terme qui a été inventé pour les footballeurs, vous savez. Et puis, par extension, pour le PAF, le paysage audiovisuel français, il y a quelques années, quand il y a commencé à y avoir des mouvements de journalistes, enfin, de présentateurs, d'animateurs d'une chaîne de télévision à l'autre, on a parlé de mercato, quoi, qui est beaucoup moins important qu'en matière footballistique, d'autant que les clubs ne se vendent pas les chaînes ne se vendent pas tu as enlevé la scène? Non, il n'y a pas de scène en fait, Alexandre, j'ai pas mis de scène encore. Ne se vendent pas les animateurs, quoi. Mais il y a un gros départ là qui anime le mercato, comme on dit, celui d'Olivier Mine. Il y a un article que je suis allé vous trouver dans Parisien dimanche. Hop, je vous le mets. Donc là, ça, c'est le Parisien de lundi. On va aller chercher le Parisien dimanche qui est, je crois, ici. Effectivement, il y a un article sur Olivier Mine qui doit être par là. Voilà. Le transfert que personne n'avait vu venir. Bon, moi, l'actualité des médias, ça m'intéresse moyennement. Je trouve que c'est très nombriliste, les médias qui parlent des médias. Quand j'étais jeune journaliste, ça m'intéressait vachement, parce que par définition, je m'intéresse beaucoup aux médias, parce que c'est un peu mon secteur d'activité et ma passion depuis 30 ans, et puis depuis plus longtemps, parce que je m'y intéressais avant. Mais c'est très nombriliste, les médias qui parlent des médias. Donc ça, je vous lis assez peu d'articles là-dessus, mais bon, si on doit lire un article sur le mercato du paysage du visuel français en cette fin de saison, c'est peut-être celui-ci, parce que c'est comme un animateur emblématique de France Télévisions. Olivier Mine, c'est un super gars. Moi, je l'ai croisé à plusieurs reprises, notamment à Fort Boyard, que j'ai fait 5 fois. Et c'est un très bon animateur. C'est un très, très bon animateur qui a beaucoup de finesse, de subtilité dans sa façon d'animer. C'est un esprit brillant. Moi, il a une finesse dans l'humour, dans le second degré. Il a un vrai talent de comédien, Olivier Mine. Moi, je suis très, très impressionné par sa capacité à animer. Et c'est vraiment un pilier de France Télévisions depuis toujours. À Fort Boyard, et il a aussi une quotidienne sur France 2, il y a plein de choses, ça fait 30 ans qu'il a France Télévisions, et il s'en va sur M6, ce qui est un move assez surprenant, et donc il y a un très bon papier dans le Parisien, puisque le Parisien, ils ont une bonne équipe de journalistes sur l'actualité médiale, c'est Benoît d'Aragon qui signe ce papier, et donc on va se pencher sur ça, et comme ça je répondrai un petit peu à vos questions sur les coulisses. J'ai appris qu'il a été viré pas mal de fois après certains flops. AMG, littéralement, cette phrase ne veut rien dire, je t'adore, hein. Mais cette phrase ne veut rien dire, puisqu'en fait, il a France Télévisions depuis toujours, et il n'a jamais été viré de France Télévisions de jamais, en fait. Donc cette phrase n'a aucun sens. Ce que tu veux dire, c'est qu'en revanche, il a le sentiment de ne pas avoir été suffisamment mis en avant par France Télévisions, malgré son engagement, malgré son talent, et il n'a pas été remercié comme il estime qu'il aurait dû être remercié. Voilà. Mais il n'a jamais été viré de France Télévisions, ça fait... C'est un peu ça, dit MMG. Oui, c'est un peu ce que je disais, quoi. Non. Mais non, putain, les mots ont une importance, bordel. Je t'adore. Donc, on lira ce papier. Et puis, on finira par une belle histoire, parce que c'est des belles histoires dans l'actualité. Une histoire de marathon. Vous savez que j'aime bien la course à pied. Où est-ce que je voulais trouver ça? Dans la Croix? Je sais plus. Non. Dans Le Monde, encore. Dans la dernière édition du Monde, la dernière. Hop. Donc ça, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. C'est un monsieur qui a lutté contre la mucoviscidose, enfin qui lutte, et qui a fait un truc de fou, c'est page 34, c'est là. Toute petite histoire, mais trop belle. Il court 42 marathons d'affilée malgré la mucoviscidose. Après avoir eu honte de sa maladie, alors pourquoi honte de sa maladie? Vous verrez, parce que c'est un monsieur qui souffre de mucoviscidose depuis longtemps, depuis son enfance ou son adolescence, et il porte cette maladie depuis toujours. Il a expliqué comment cette maladie l'a freiné, notamment dans sa vie d'homme. Après avoir eu honte de sa maladie, Paul Fontaine a décidé d'en faire une force. Voilà, pour fêter ses 42 ans, il aura parcouru 1772 km de la côte basque au nord. Je crois que ce monsieur a fait 42 marathons en 42 jours, voilà, avec la mucoviscidose. Il explique comment certains nouveaux médicaments là, ont changé sa vie, voilà, en mieux. Et en fait, voilà, je voulais qu'on rende hommage à ce monsieur. On finira avec cette belle histoire, parce que le mec est juste incroyable. Voilà, bravo, monsieur Fontaine. Voilà. Il l'a fait en 45 jours, finalement, et pas 42. Ah, il a peut-être fait des petites pauses. Là, c'est 40. Là, ils disent 42 jours, là. Peut-être qu'il a fait une pause, mais ils disent 42. Peut-être qu'il a fait une petite pause. Il a triché. Je sais pas. Là, c'est 42. Là, c'est 42. Pas mal, hein. C'est fou, hein. Voilà. Un marathon. Le mec, il en tape 42 d'affilée, quoi. Bravo, quoi. Ah, merci, Sarah. Sarah nous dit, qui est modératrice sur cette chaîne, GG et force au modo, mon neveu est atteint aussi, le côté honte avec tous les symptômes est hyper dur à gérer. Thanks God, mais les parents l'ont soutenu sans faille pour qu'il s'accepte. Et maintenant, il découvre petit à petit de nouveaux traitements. Il y a une révolution des traitements sur la muco hein, qui change la vie de pas mal de patients. C'est juste incroyable. Pour de plus en plus de formes de la maladie, ça, c'est formidable. Ouais. Alors oui, toutes les formes de la mucoviscidose ne sont pas traitables encore. Ouais. C'est incroyable. La mucoviscidose, tu connais pas Minchip, c'est un truc qui atteint les poumons, c'est un truc de fou. C'est une maladie génétique. Ouais. C'est quoi les symptômes de la mucoviscidose? Ben en fait, je suis pas spécialiste, hein, mais de mémoire, tu perds progressivement toute ta capacité respiratoire en fait. Et longtemps, les personnes atteintes de mucoviscidose mouraient très très tôt. Très très tôt. Ouais, bon, on pensera. Bon, mais si vous voulez, on ira voir ce que c'est que ton mucoviscidose. On ira faire des recherches pour pas dire de bêtises, quoi. Voilà. Oui, on se souvient de Grégory Lemarchal, qui était un jeune chanteur qui est décédé comme ça très très tôt, ouais. Ouais, et on me dit que c'est pas que au niveau des poumons, il y a aussi un truc au niveau du cœur et peut-être même de l'appareil digestif. C'est ce que je suis en train de dire, quoi. Bon, les amis, voilà le petit sommaire. Vous avez vu, il y a des sujets assez divers, assez intéressants. Voilà. J'ai vu que Gaza avait commencé à mettre le feu au chat, les amis. Si vous voulez qu'on continue à faire de l'information sur cette chaîne, quels que soient les sujets, y compris les plus sensibles, les plus polémiques, faites un effort dans la manière où vous vous exprimez, dont vous parlez aux autres viewers, dont vous affirmez vos opinions. Les gens très très convaincus, les gens qui ont des opinions très très fortes, ça me fait toujours un petit peu peur. Ayez un peu d'humilité par rapport à vos propres convictions. Écoutez les autres, voilà. Respectez les modérateurs. Voilà. Vous pouvez vous en prendre à moi, j'en ai rien à foutre. Je suis un vieux, j'ai le cuir dur, mais laissez les motos tranquilles, sinon vous dégagez. Voilà. Faites un effort. Hein, sinon on fera que du gaming hein, sur cette chaîne. Hein, ça va aller quoi. Allez, c'est parti. On va aller voir Le Monde pour parler de Gaza. Tchouk. Tchouk. Hop. Donc Gaza, merci Le Monde de faire ce dossier, affamé par 2 mois de blocus alimentaire, depuis le 2 mars, donc ça fait 2 mois, plus rien n'entre dans l'enclave de Gaza, ni nourriture, ni médicaments, ni carburant. Les Nations Unies estiment que la situation a atteint son pire niveau depuis le début de la guerre, vous vous rendez compte, déclenchée par Israël après les massacres terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. Selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, tout recours à la famine contre la population civile constitue un crime de guerre. Voilà. Allons lire ce dossier, pour le coup on va prendre le temps. Dans Gaza, c'est le titre de ce dossier du Monde, on ne vit plus, on survit. Voilà. Et le Monde redit ces mots incroyables. Les Nations Unies estiment que la situation dans l'enclave a atteint son pire niveau depuis le début de la guerre. Nick Sununet nous dit « C'est horrible, j'ai l'impression que pas grand-chose ne bouge. » Bah, écoute, on a un peu tous le même sentiment. Alors, je ne vous lis pas tout le dossier, je vais vous lire les passages qui me semblent les plus importants. Cela fait 2 mois que plus rien n'entre dans le territoire supplicié, que ce soit par les canaux commerciaux humanitaires, ni nourriture, ni médicaments, ni carburant. Les autorités israéliennes ont imposé ce blocus le 2 mars. Voilà. 16 jours plus tard, elles brisaient le cessez-le-feu avec le Hamas qui était entré en vigueur le 19 janvier. Aucune aide n'entrera à Gaza, a redit mi-avril le ministre de la Défense israélien. L'asphyxie et les frappes, précédées par 16 mois de guerre sans limite, lancées par Israël en représailles à l'attaque du Hamas d'octobre 2023, ont épuisé la population civile. Je suis fatigué. La peur, les bombardements nous privent de sommeil, témoigne par exemple une habitante du nord de la bande de Gaza. On ne vit pas, on survit, dit encore un professeur d'université qui s'exprime depuis la ville de Gaza. Les privations imposées par le siège ne permettent qu'une alimentation rudimentaire, du riz, des pâtes, des boîtes de conserve dont les habitants redoutent qu'elles soient variées, quelques rares légumes pour les plus fortunés. Le prix de la nourriture a grimpé de 1400% selon les Nations Unies et dans le même temps les ressources sont fondues. Les Gazaouis, donc les habitants de Gaza, font un seul repas par jour. Certains tiennent sur les réserves qu'ils ont constituées pendant la trêve. Hein. Mais jusqu'à quand les provisions suffiront-elles ? C'est un journaliste qui parle, qui s'appelle Abdel Hadi Okal, qui est père de 7 enfants, qui se trouve dans un camp de réfugiés à Jabalaya, dans le nord de Gaza. Voilà, il s'interroge, il a sa famille. Il redoute de vivre la famine des mois qui ont précédé le cessez-le-feu. Il avait alors perdu 20 kilos. À l'époque, ses enfants ont tous eu la jaunisse, maladie dont la sous-alimentation est l'une des causes. Pour nombre de Gazaouis, les journées se résument à quoi ? Chercher de la nourriture, chercher du bois pour cuisiner en l'absence de gaz et chercher de l'eau. Les Nations Unies ont averti que la situation avec Gaza avait atteint son pire niveau depuis le début de la guerre. Israël semble infliger aux Palestiniens à Gaza des conditions de vie de plus en plus incompatibles avec leur existence continue en tant que groupe à Gaza, a alerté fin avril le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Tout recours à la famine contre la population civile, en tant que méthode de guerre, constitue un crime de guerre, de même que toute forme de punition collective. Gaza est un enfer. La situation est si grave que des vols sont commis pour manger, la menace de mourir semble provenir de partout, des bombes, de la faim, de la maladie. Il n'y a plus de services médicaux. Le système de santé de Gaza a été délibérément détruit par l'armée israélienne, selon les Nations Unies. Et puis Rhodes, ce sentiment terrible d'abandon, la communauté internationale a disparu, considère le monsieur qui parle. Je crois que c'est un pharmacien qui est interrogé. La communauté internationale a disparu, dit-il, accusant cette communauté internationale de laisser les Palestiniens innocents être tués dans ce qu'il qualifie un holocauste. Le monde ne semble pas dérangé qu'il y ait 50 morts par jour dans les bombardements, insiste-t-il. On entend ici et là, dit un autre Palestinien, des déclarations, des condamnations, mais on ne voit aucune véritable pression pour mettre fin au blocus de Gaza. Ni des Nations Unies, ni des pays occidentaux, ni des pays voisins comme l'Égypte et la Jordanie. Ce professeur de français qui parle s'appelle Ziad Medouk, dont plus de 50 membres de la famille élargie ont été tués depuis le début de la guerre, note qu'il n'y a plus de déplacement de civils d'une ville à l'autre. Les Gazaouis ont compris que c'était difficile et inutile. Ils préfèrent rester près de chez eux, malgré les ruines. Aucune zone n'est protégée des bombardements. Après, il y a quelques témoignages, d'autres témoignages de Gazaoui. La parole, par exemple, à Souhab Abou Saïf, qui est un travailleur social qui a 30 ans, qui depuis son adolescence n'a connu qu'une succession d'offensives israéliennes et le contrôle de la bande de Gaza par le Hamas depuis 2007. Mais pour lui, cette guerre actuelle est sans comparaison. Par le passé, les Gazaouis repartaient de l'avant une fois que les armes s'étaient tues. Aujourd'hui, la bande de Gaza n'existe plus. Elle a été totalement détruite, elle a été totalement rasée. Voilà. Là, vous avez un éclairage sur la ville de Rafah. Et vous avez un petit point sur les efforts diplomatiques de part et d'autre. Je vous lis. Salut Camille, à ce soir. Merci Lewis. Merci Pompidou. Merci Coréal. Merci Néo. Merci Telk. Pardon, je vais pas remercier. Merci Julio Fonchute. Merci Salokin. Merci Toxico. Merci Flox. Merci Don Diplomatico. Merci Azecho. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais trouver un article. Là, on parle de la situation humanitaire des Gazaouis. J'aimerais bien trouver un article qui nous fasse le point sur là où on en est de ce cessez-le-feu qui a été interrompu, je crois. Voilà. Et des efforts éventuels de la communauté internationale pour mettre fin au conflit, quoi. On va essayer de trouver un article qui nous résume ça. Prenons un petit peu le temps. Waouh. Je viens de tomber sur un article du Monde qui vient d'être posté il y a quelques minutes là. Israël approuve un plan incluant la conquête de la bande de Gaza et la promotion du départ volontaire des Gazaouis. Le cabinet israélien a approuvé donc dans la nuit de dimanche à lundi, c'est la nuit dernière, l'expansion de l'offensive israélienne à Gaza. Et la réhabilitation du nord d'Israël et de la zone frontalière de Gaza au sud d'Israël. Hop. Alors déjà, les familles des otages israéliens dénoncent ce plan. Le forum des familles d'otages israéliens dénonce un plan d'abandon des otages qui sera retenu comme une erreur tragique. Le gouvernement admet qu'il choisit les territoires plutôt que les otages, et ce contrairement à la volonté de plus de 70% de la population, accuse le forum, estimant que ce choix sera retenu comme une erreur tragique. Ça, c'est une réaction des familles des otages. Voilà. Et là, vous avez ce plan qui vient d'être adopté par Israël, par le gouvernement israélien. Ce plan comprendra entre autres la conquête de la bande de Gaza et le contrôle de territoire dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien qui a par ailleurs affirmé pendant la réunion, mais c'est fou en fait. Merci Beknak. Merci pour le soutien. Merci Lewis. Regardez. Le Premier ministre israélien a par ailleurs affirmé pendant la réunion qu'il continuait à promouvoir le plan de Donald Trump. Vous vous rappelez ce truc qui nous a tant paru surréaliste. Merci Nixon Honnête. La Riviera. Quand Trump a dit « Mais moi, j'ai une solution pour la bande de Gaza, c'est tout rasé. Bon, ben, du coup, ben, il faut reconstruire. On vire les Palestiniens, on va les mettre ailleurs, on va demander aux pays arabes de la région. » Voilà, parce qu'en fait, ils ont kikiné tout le monde. « Et on crée une Riviera, donc une côte d'Azur, On met des immeubles de luxe, des hôtels, et on fait venir les touristes du monde entier. Trump l'a dit, ça. Hein, voilà. Et le gouvernement israélien l'a pris au rebond en disant « Let's go, on fait ça, quoi. » Et le truc est tellement énorme que vous dites « C'est pas possible. » Ils ne peuvent pas avoir ça en tête. Le gouvernement israélien vient déclarer officiellement qu'il continue à promouvoir le plan de Donald Trump visant à permettre le départ volontaire des habitants de Gaza et que les négociations à ce sujet se poursuivaient. C'est-à-dire que le truc, ils le font premier degré, quoi. Incroyable. J'essaie de vous trouver un autre article. Là, j'ai un article qui part de la Croix-Rouge, qui a été publié le 2 mai sur France Info. Guerre dans la bande de Gaza, les opérations humanitaires au bord de l'effondrement total. Alerte la Croix-Rouge. Depuis le 2 mars, aucune aide humanitaire, dont on parlait avec Le Monde il y a un instant, n'est autorisée à entrer dans le territoire palestinien où vivent actuellement quand même 2,4 millions de personnes, quoi. C'est fou l'histoire de ce plan de conquête de Gaza là. On a bien fait de se pencher sur le sujet ce matin quand même. Tiens, moi ce que je voulais savoir aussi ce matin, c'est où on en est, parce que pour le coup, j'ai fait un peu moins de revues de presse ces derniers temps et je m'en excuse. Du conflit, et notamment de l'opération militaire israélienne. Merci ce voyageur, merci beaucoup, merci à toi. Guerre dans la bande de Gaza, c'est un article de France Info publié le 4 mai. Israël rappelle des dizaines de milliers de réservistes pour étendre son offensive contre le Hamas. Depuis qu'Israël a mis fin le 18 mars à 2 mois d'une trêve, quelqu'un me demandait tout à l'heure, mais pourquoi a été mis fin à la trêve? Peut-être que l'article va nous le rappeler, sinon on va le retrouver. Est-ce que je fais d'autres vues de presse cette semaine? Peut-être demain matin, en vrai. Peut-être demain matin. Depuis qu'Israël a mis fin le 18 mars à 2 mois d'une trêve dans la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en octobre 2023, Netanyahou, donc Premier ministre du gouvernement israélien, assure qu'une pression militaire accrue est le seul moyen de forcer le mouvement islamiste palestinien à rendre les otages. Des dizaines de milliers de réservistes, donc on voit que l'opération est loin d'être terminée, rappelé par l'armée israélienne pour son offensive à Gaza, annonçant que son objectif est la destruction de toutes les infrastructures du Hamas. Le communiqué, enfin, les propos officiels, c'est « Nous intensifions la pression dans le but de ramener nos otages. » Bon, les familles des otages n'en sont pas très convaincues, vous l'avez vu, avec leur réaction. Merci Idali de ce 34e mois, c'est énorme. Annonçant que son objectif est de la destruction de toutes les infrastructures, nous intensifions la pression dans le but de ramener nos otages, de vaincre le Hamas, nous agirons dans d'autres zones et détruirons toutes ces infrastructures à la surface comme sous terre. Ok, bon, ça c'est ce qu'ils disent depuis toujours. Il confirme ainsi une information donnée samedi par les médias locaux. Depuis qu'Israël a mis fin le 18 mars à 2 mois d'une trêve dans la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas, Netanyahou assure qu'une pression militaire accrue est le seul moyen de forcer le mouvement islamiste palestinien à rendre les otages. Voilà. Alors le forum des familles d'otages est absolument pas d'accord et estime qu'au contraire, toute intensification des combats les placerait en situation de danger immédiat. Samedi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, soumis à la pression de ses soutiens d'extrême droite sans lesquels il perdrait sa majorité, rappelons que le gouvernement Netanyahou est un gouvernement qu'on peut qualifier de gouvernement d'extrême droite, en tout cas soutenu par l'extrême droite, puisque... pour ceux qui connaissent un petit peu le régime parlementaire israélien, on est sur un régime parlementaire quasi, très pur, avec une proportionnelle intégrale, si mes souvenirs sont bons, pour l'élection des parlementaires, des élus de la Knesset. Voilà. Et en fait, ce régime parlementaire fait qu'en fait, il est très très compliqué de former des gouvernements en Israël depuis toujours. Hein, depuis toujours. et de former des majorités, puisque en gros, même les tout petits partis, parfois, ont un élu, deux élus, trois élus. Il y a un émiettement des forces politiques à la Knesset depuis toujours. Et du coup, les gouvernements sont obligés de former des coalitions, parfois rassemblant la carpe et le lapin, pour réussir à gouverner. Là, par exemple, pour avoir une majorité, Netanyahou, lui, s'est allié à l'extrême droite. Voilà. Et comme souvent dans ce type de régime parlementaire, finalement, ceux qui gouvernent, eh bien, sont pas les plus nombreux, mais ce sont, paradoxalement et un peu bizarrement, les petits partis. Ça ressemble à la France ? Pas du tout, Franck. En France, le régime politique français n'a rien à voir avec le régime parlementaire israélien, même si certains aimeraient estiment qu'on devrait aller vers ça. Même si les élections législatives de ces dernières années ont provoqué une situation à l'Assemblée qui, paradoxalement, pour un régime présidentialiste, tend à nous rapprocher d'un régime parlementaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, là, par exemple, ce sont effectivement l'extrême droite et les ministres d'extrême droite qui dictent un peu sa politique à Netanyahou, parce que sans ce soutien de l'extrême droite, le gouvernement Netanyahou, il saute. Et comme Netanyahou, par ailleurs, a de gros problèmes avec la justice et que lui pend au nez toute une série de procès le jour où il quittera le pouvoir, pardon pour l'expression, mais Netanyahou, il s'accroche au pouvoir comme une moule à un rocher, parce qu'il sait que le jour où il dégage, ça va être très très compliqué pour lui sur un plan personnel. Donc là, en gros, il donne carte blanche à ses alliés d'extrême droite pour rester au pouvoir. Je vous le simplifie, mais en fait, la réalité est exactement celle-ci, quoi. Donc c'est ce que explique France Info ici. Samedi soir, Netanyahou soumis à la pression de ses soutiens d'extrême droite, sans lesquels il perdrait sa majorité, s'en est par ailleurs pris au Qatar. L'Émirat mène avec l'Égypte une médiation en vue d'une trêve avec le Hamas et d'un accord de libération des otages encore détenus par le mouvement islamiste palestinien ou ses alliés dans la bande de Gaza. C'est marrant, Netanyahou s'en prend au Qatar, parce qu'ils essayent avec l'Égypte, les Qataris, de mettre en avant une médiation pour trouver une trêve avec le Hamas. Voilà. Il est pas mal, c'est un tout petit article, vous voyez, mais qui nous rappelle un petit peu où on en est sur le plan militaire. Moi du coup, j'avoue, j'ai fait une petite pause dans l'info. Pourquoi il y a eu fin de la trêve décrétée entre le Hamas et le gouvernement ? On va trouver ça en deux. L'article est un petit peu court, je vais trouver mieux que ça. Je vous montre ce que je cherche, hein. C'est transparent. La Dépêche, bon, la Dépêche c'est un bon journal. Ok. Pourquoi Israël a décidé de lancer une nouvelle offensive ? Article daté de... Tais-toi la musique. Le 18 mars. Deux mois après l'entrée d'un cessez-le-feu, on revient un petit peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Israël a repris ses frappes sur Gaza. Ce regain de violence marque l'échec des négociations entre Tel Aviv et le Hamas. La trêve durait depuis deux mois, donc voilà, on revient en arrière. Deux mois que Palestiniens et Israéliens s'étaient accordés sur l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Mais à l'aube de ce cap, Gaza a une nouvelle fois été le théâtre de bombardements meurtriers. Israël a donc décidé de reprendre la guerre une dizaine de jours après avoir suspendu l'accès de l'aide humanitaire. D'après un communiqué de son gouvernement, ces bombardements font suite au refus répété du Hamas de libérer nos otages, donc c'est le prétexte pris par le gouvernement israélien, ainsi qu'à son rejet de toutes les propositions qu'il a reçues de l'envoyé présidentiel américain de Steve Witkoff et des médiateurs. Je ne sais pas s'il parle de la Riviera, mais... Et ils ne prennent plus en compte le cessez-le-feu entré en vigueur il y a deux mois. L'accord de trêve avait été négocié en début d'année entre Tel Aviv et le Hamas via l'intervention du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Mais Netanyahou avait assuré être prêt à reprendre les combats intenses à tout moment. Donc Israël a estimé que les libérations d'otages ne se faisaient pas assez vite, quoi. De son côté, le Hamas campe sur son refus de discuter d'autre chose que d'une mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord, censée garantir la fin définitive de la guerre et le retrait israélien de Gaza. Ce qui a déplu à Netanyahou, qui a ordonné le nouveau bombardement de Gaza avec l'aval des États-Unis, quelqu'un le disait dans le chat, tu avais raison, et de continuer à massacrer la population gazaoui malgré le cessez-le-feu. De fait, les négociations sont bloquées. Où en est-on aujourd'hui ? Le Hamas refuse de prolonger la première phase selon la formule proposée par Israël, cette première phase de libération des otages, tandis que Tsahal souhaite revoir les termes de l'accord. En face, le Hamas accuse Netanyahou de se servir de la guerre comme d'une bouée de sauvetage face à ses problèmes politiques et d'avoir décidé de sacrifier les otages encore vivants à Gaza. Voilà. Écoutez, en quelques articles, on pourrait passer des heures hein, sur le sujet. On y a déjà passé quelques heures, je dirais même quelques jours depuis la création de cette chaîne sur le sujet du Proche-Orient. Si on met bout à bout tous nos échanges, en quelques articles, on a fait une petite photographie de là où on en était aujourd'hui. La solution, il y a LDP, player, qui me dit la solution, qui demande à Samuel Etienne, animateur de questions pour un champion, et gamer pro, la solution à la crise au Proche-Orient, hein, qui remonte à la création de l'État d'Israël, et même en amont. Mais bien sûr, je l'ai, mais évidemment. évidemment que j'ai la solution. Évidemment, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, j'ironise parce que la question est éminemment difficile. On aimerait tous avoir la réponse à cette question et je redeviens un petit peu plus sérieux. Il y a quelques mois, dans l'un des articles qu'on a lu sur le sujet, et on en a lu des articles, et on en a lu. Moi, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne que ce sujet du Proche-Orient, je m'intéresse depuis 30 ans, puisque quand j'étais jeune journaliste, le sujet existait déjà. Voilà. Sauf qu'à l'époque, on parlait du processus de paix israélo-palestinien, puisqu'il y a eu des espoirs de paix dans la région, et qu'à une époque, les partisans de la paix des deux côtés, les Palestiniens, les Arabes, les Israéliens, les partisans de la paix ont failli gagner et ont failli réussir à instaurer la paix. Et puis, les extrémistes des deux camps ont réussi à inverser la tendance, assassinat d'Itzhak Rabin, etc. etc. Et on est passé du processus de paix israélo-palestinien qui faisait rêver tout le monde à là où on en est aujourd'hui. Quoi. Donc ça fait littéralement 30 ans que je suis ce sujet. Je suis même allé sur place à une époque pour me documenter personnellement. Je suis allé en Israël, je suis allé dans les territoires palestiniens également. Pas pour le travail, j'étais journaliste, mais c'était vraiment pour essayer de comprendre le sujet. Et je suis allé voir des confrères, des jeunes journalistes de l'époque, qui étaient correspondants envoyés spéciaux sur place, quoi. Pour me faire ma propre opinion. Pour reprendre le fil de ce que je disais, il y a quelques mois, on a lu un article qui citait un spécialiste de la région, un chercheur, qui disait ceci. La seule solution au conflit, c'est la reconnaissance par Israël et par la communauté internationale d'un État palestinien. Il n'y a aucune chance que cela arrive, mais c'est la seule solution. Et tous les gens qui s'intéressent correctement à ce sujet depuis qu'il existe le savent, c'est la seule solution. Voilà. C'est la seule solution. Un État palestinien indépendant, reconnu par Israël, pour que les ennemis d'hier puissent vivre en paix, une paix sans doute tendue, mais en paix. Sauf qu'en fait, évidemment, le gouvernement israélien actuel ne veut pas de cette solution, de même que le Hamas ne veut pas de cette solution. Et vous avez deux acteurs qui ont intérêt à ce que la guerre se poursuive. Alors est-ce que nous vivrons de notre vivant la paix dans cette région ? Je ne sais pas. Et il faut que cet État palestinien reconnaisse également, de son côté, l'État israélien et son droit d'exister. L'IFPI, pardon. Exactement. C'est pour ça que le Hamas n'est pas non plus une solution. Hein, puisque le Hamas nie l'existence de l'État d'Israël. Coucou Delirious, ça va le boulot? Le pire, c'est qu'on a frôlé la paix il y a quelques dizaines d'années dans la région. Quoi. Est-ce que tu penses que c'est possible, après ces massacres, d'être en paix? Des nations, des pays qui se sont massacrés, qui se sont fait la guerre parfois à plusieurs reprises, parfois de façon atroce, pensons aux relations entre la France et l'Allemagne pendant des siècles, on finit par vivre en paix. Donc est-ce que c'est possible? Oui. De toute façon, Trump, il va mettre des hôtels après. Je sais, petit nano, mais c'est surréaliste, quoi. C'est quand même surréaliste que Trump, à un moment, dise « Ok, Gaza est rasé, laisse tomber, on vire les Gazaouis, on va créer des hôtels de luxe, des immeubles chics, et on va faire venir les touristes du monde entier, et que Israël dise « Let's go, c'est la bonne idée, quoi. » Mais dans quel état est le monde pour que un mec, le premier président, le président de la première puissance mondiale, puisse faire cette proposition, et qu'il y ait des gens en Israël qui disent ouais, « Let's go, c'est la bonne idée, quoi. » C'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui soufflent sur les braises, quoi. Non seulement vous avez des acteurs importants aujourd'hui de la vie politique internationale qui ne jouent pas leur rôle, mais qui, mais à un moment, les mecs, ils rajoutent de l'essence sur le feu, quoi. Que voulez-vous que pensent les Palestiniens d'une proposition comme celle-ci, quoi? Est-ce que, en termes de espèce d'injustice fondamentale, imaginez la colère que ça puisse provoquer, quoi. Le désespoir, la colère. Et c'est, voilà. Donc, vous avez aussi la responsabilité des acteurs internationaux dans leur impuissance, dans leur absence d'action et parfois même au-delà, quoi. Est-ce que le peuple israélien est OK avec le gouvernement? Alors ça, c'est une très bonne question, Delirious. Moi, je suis de ceux qui disent faut pas confondre un peuple et son gouvernement. Hein. Si je vous dis, imaginons, on se met depuis un regard étranger et je vous dis, les Français, c'est Bayrou, parce que c'est le chef du gouvernement. Non. Vous allez me dire, il est con, quoi. Ou je vais vous dire, les Français, c'est Macron. Et là, vous allez me dire, non, quand même. Voilà. En fait, c'est pareil, d'affirmer que les Israéliens, c'est Netanyahou, c'est aussi bête. Alors, il est arrivé au pouvoir, donc à un moment, il y a eu élection. Mais comme je vous l'expliquais, la vie politique israélienne est un tout petit peu compliquée, quoi. Donc oui, à un moment, les Israéliens, enfin en tout cas, une partie des Israéliens, suffisamment pour que le gars arrive au pouvoir, ont donné leur voix à ce gars-là. Mais bon, il ne faut pas confondre un peuple avec ses gouvernants, quoi. Est-ce que les Gazaouis sont OK avec le Hamas? Vieux chien pollué, je ne peux pas parler en lieu et place des Gazaouis. Mais, pour essayer de répondre à ta question, il y a sans doute... Il y a beaucoup de Palestiniens qui ne se retrouvent pas dans le Hamas. Ce qui est fou dans les attentats, je reviens aux attentats commis par le Hamas, c'est que la plupart des victimes des attentats du Hamas d'octobre, qui a déclenché la folie d'Israël, la plupart des victimes étaient des pacifistes. Hein. C'était des gens qui étaient installés dans les kibbutz, non loin de la bande de Gaza, à la frontière, et c'était des pacifistes, c'était des militants de la paix, c'était des gens qui professait de tendre la main aux Palestiniens, quoi. C'est surréaliste, quoi, en fait. Bon, les gars, ce n'est pas, hélas, hein, j'aimerais en avoir le pouvoir, mais ce n'est pas en quelques minutes, dans une pauvre revue de presse sur Twitch, que je vais vous donner les clés et les solutions de ce sujet infiniment complexe pour l'occasion, moi, ça fait 30 ans que je me penche dessus et je serais bien en peine de vous dire ce qu'il faudrait faire. Enfin, si, je viens de vous le dire, en fait. Finalement, c'est relativement simple. Hein. Il n'est pas totalement déconnant d'imaginer qu'un peuple qui s'appelle le peuple palestinien ait le droit à un État et des frontières pour vivre en paix. Et il n'est pas totalement déconnant que l'État d'Israël, que les Israéliens, au regard de l'histoire du peuple juif, aient aussi le droit de vivre en paix dans des frontières, certes créées de toutes pièces, dans les conditions que vous savez, mais ce n'est pas totalement déconnant non plus. Donc la solution de deux États qui vivent en paix, bon bah oui, elle est là. Sauf qu'en fait, les acteurs locaux et internationaux de ce problème ne font pas ce qu'il faut pour arriver à cette solution. Donc à la fois le problème il est très compliqué et la solution est très très simple. Mais c'est la mise en œuvre de cette solution simple qui est extrêmement compliquée. Voilà. Et je finirai avec un dernier bémol. Ce n'est que mon ressenti, que mon analyse. Je ne suis qu'un petit journaliste qui n'est pas un expert de ces sujets, qui n'en connaît que ce qu'il a lu sur ce sujet littéralement depuis 30 ans, ou ce qu'il a pu raconter dans les journaux, de ce que j'ai pu voir aller sur place aussi, parce que je suis allé parler à des Israéliens, à des Palestiniens pour essayer de comprendre. Et j'ai vu qu'il y avait des gens de bonne volonté de deux côtés et qu'il y avait des fous des deux côtés, comme partout. Voilà, ce n'est que mon analyse. Et à vous, au fil de vos lectures, de la façon dont vous allez vous renseigner sur le sujet, de vous faire votre propre opinion, bien sûr. Voilà. Hein, je suis loin de détenir la vérité sur quelconque sujet que ce soit. D'ailleurs, et quand j'exprime un avis, je le fais avec beaucoup de précaution parce que il peut être totalement erroné. Enchaînons. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Cette chaîne, elle est aussi pour parler de... Elle est là pour vous faire rire sur mon niveau sur les jeux vidéo, mais elle est aussi là pour parler des sujets, même les plus gênants, qui provoquent parfois dans le chat des petits accès de tension. Et merci d'essayer de, malgré vos différences d'opinion, de réussir à vous parler. Quoi. Gélad, Constance, Satsatonic, Pabesque, merci beaucoup pour les soutiens. On va sur du plus léger. Je pense, ouais. On va aller sur la succession du pape François. Voilà. Puisque j'apprends dans Le Parisien, bon, c'est un peu franco-français ça, que ce pourrait être un pape français. Bon, à mon avis, c'est un peu un tropisme, ça, je pense.
Je sais pas.
On va lire l'article, peut-être qu'ils ont vraiment leur chance, quoi. Non, pas pape saint, qu'est-ce que... Oh, j'adore. Qu'est-ce que ça raconte? Il est où, Le Parisien du jour? C'est celui-là? Ouais. Et si le prochain pape était français, en fait? C'est le Parisien qui pose la question ce matin, puisque les cardinaux s'enferment à partir de mercredi, c'est l'actu de la semaine, dans la chapelle Sixtine, c'est joli, pour élire le successeur de François. Qu'est-ce que raconte Olivier Auguste? Ok, d'accord. Des papabili. Papabili, c'est vraiment... Papabili, c'est vraiment... C'est le terme consacré? Je ne connaissais pas. Ah ouais, putain, papabili, ça doit être un mot italien. C'est les papes potentiels. Papabili. Papabile. Pop. Être perçu papabile. Papabilé, est l'expression... Ça va être papabilé, je pense. Et l'expression couramment utilisée dans les médias, le plus souvent sous sa forme italienne, pour désigner les cardinaux qui ont la plus grande chance, probabilité d'être élu pape. Être perçu papabilé, je pense que, en italien, je pense, ne garantit pas d'être élu pape. Papabilé. Et là, le Parisien dit papabili, des papabili. J'ai l'impression que c'est un peu un terme médiatique. Hein. Les papabilés, ouais, vous avez vu, on trouve tout de suite des... Donc papabilé italien aurait donné le papabili. Ouais. Ah, c'est au pluriel. Ah oui, comme... je suis nul en italien. Papabili, c'est le pluriel. D'accord, ok. Papabili. Ok. Bon, encore appris un truc. Comme pizza, son pluriel c'est pizzé. Bah non, ça devrait être pizzi alors. Ah. Spaghetto, spaghetti. Non, c'est pizzi alors. comme paparazzo, paparazzi. Ok. Canolo, canoli. O-I-A-E. Pizzi parce que c'est féminin. Voilà, mais vous êtes tellement fort. Ok. Lavabo, lavabi. D'accord. Non, je blaguais pour Pizzi. Il y a Picno, Picno Jaunil qui dit « Pluriel de pizza, c'est pizza, je vais en Italie. » Non, mais c'était une vanne, en fait. C'était une vanne. Chapi, chapeau. Ça, c'est, même les Italiens s'y mettent, bordel. Alors, penchons-nous sur ces Papa Billy made in France. Donc, l'élection du souverain pontife, je me régale, moi. Démarre ce mercredi parmi les Français en bonne place. Le Marseillais Jean-Marc Aveline. Voilà. Pandi Panda, oui, pareil. Pandi Panda, italien. Ouais. Ouais. Pipi dans l'eau, pipi au lit. Non, je pense pas, non. Samuelé, Samueli aussi, ouais. Un Samuelé, des Samueli, tout à fait. Donc, le Marseillais Jean-Marc Aveline ou le Corse François-Xavier Bustillo. Ce mercredi, 7 mai, 133 cardinaux venus de Rome depuis le monde entier, ils sont 33, âgés de moins de 80 ans. Ah, faut avoir moins de 80 ans. Ok. S'enfermeront dans la chapelle Sixtine, j'espère qu'ils ont des trucs à bouffer quand même, afin d'élire le successeur de François. La fumée blanche, la fameuse fumée blanche, pourrait-elle s'envoler dans le ciel italien pour un pape français? Parce que je crois que quand ils ont décidé du nom du pape, il y a une fumée blanche. Voilà. Et puis s'ils ne sont pas encore... s'ils ne se mettent pas d'accord, je crois qu'il y a une fumée noire. Ça va Samuel, tu es éligible. Plus pour longtemps, hein. La dernière fois, c'était il y a 700 ans. Ah, le dernier pape français, c'était il y a 700 ans. Pierre Roger de Beaufort, hein, noble originaire de Limoges, devenait Grégoire XI. C'était en 1370. Ah, les gars, mais mettez-nous un pape français, en vrai. Conclave, Lemmings, ok. Tout cardinal peut être élu. Aucun candidat ne semble s'imposer, contrairement à l'élection de Benoît XVI, où un consensus avait pu se faire facilement, rappelle l'archevêque de Tours. Le tableau est ouvert, un Français a ses chances. Comme l'Eurovision, dit Thierry Le Bonnet. Ah bah si on a la même chance qu'à l'Eurovision, on ne risque pas d'avoir de pape français. Hein. Parmi les cardinaux en lice, Jean-Marc Aveline, François-Xavier Bustillo, évêque d'Ajaccio, chouchou des médias, Christophe Pierre, nonce apostologique aux États-Unis. Philippe Barbarin, ancien archevêque de Lyon, démissionnaire après qu'une affaire d'abus sexuel qu'il était accusé d'avoir couvert. Quoi ? Philippe Barbarin, ancien archevêque de Lyon, démissionnaire après une affaire d'abus sexuel qu'il est accusé d'avoir couvert. Il serait en lice ? Quoi ? Il y a des mots que je ne comprends pas là. Parmi les cardinaux en lice. Ok, ce monde est dingue, ce monde est fou. Merci Soltix, merci Sissim. Après en lice mais pas favori. Bah encore heureux. Tu veux pas qu'on lui ouvre des colliers de nouilles aussi? Dominique Monberti, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique au Vatican, blablabla. Âgé de moins de 80 ans, ils peuvent voter. Trop vieux mais éligible. Quoi, trop vieux mais éligible? Ah, il y en a qui peuvent pas voter, mais peuvent devenir pape. Tu peux être trop vieux pour voter, mais manifestement, il n'y a pas de limite d'âge pour devenir pape. Bon, c'est bon, j'ai toutes mes chances. Comme le cardinal Jean-Pierre Ricard, empêtré dans une affaire d'abus sexuel. Non, mais... mais arrêtez à mettre dans les favoris les... Non mais... Non, ils sont éligibles. Ils sont éligibles. L'article ne dit pas qu'ils sont favoris, mais ils peuvent être élus. C'est écrit, hein. Paul Poupard, prélat haut placé dans la curie romaine, et André 23, l'ancien archevêque de Paris. Comment ça, Jean-Marc Morandini est éligible? Arrêtez! Je vous demande de vous arrêter. Bon, bon, un spécialiste dit, en vrai, il y en a que deux qui sont vraiment parmi les Français qui peuvent être élus. Donc, il y avait notamment le Corse là et le Marseillais, quoi. Aveline. Aveline, cardinal internationalement connu, qui a fait venir le pape en France, à Marseille, en septembre 2023. Les images de la messe au stade Vélodrome ont fait le tour du monde. Son travail sur la Méditerranée, avec les prélats de ces zones qu'affectionnait François, l'a fait rayonner dans une région où l'Église est très dynamique. Quel impact pourrait... Merci Worms qui nous dit que la constitution pontificale prévoit que tout prêtre peut théoriquement être élu. Dans les faits, c'est toujours les cardinaux. Ah, ok. Donc théoriquement, n'importe quel prêtre peut être désigné pape, élu pape, mais dans les faits, c'est quasiment toujours des cardinaux. Okay. Quel impact pourrait avoir la nomination d'un pape français dans l'Hexagone ? Il y aurait une légitime fierté à se dire l'un de nous a été élu sur le trône de Saint-Pierre, estime Monseigneur Jordi. Ah, Jordi, tiens. Dur d'être un cardinal quand même, qui voit aussi l'occasion de redonner une belle place à la vieille Europe après 12 années d'un pontificat où François a préféré mettre en avant les périphéries. Jordi le chanteur, ben oui, ça doit être lui, ouais. Vous connaissez d'autres Jordi, vous? Je pense que c'est lui, hein. La chanson mène à tout, hein. Non, ça va être un autre, je pense. Reste que le gouvernement français, s'il ne fait pas d'ingérence, guette avec intérêt la fumée blanche, un pape français serait une bonne nouvelle pour le pays, car le Vatican dispose d'une diplomatie puissante entre la parole d'un pape très écouté et son réseau sans égal dispersé dans le monde de prêtres, d'évêques ou de nonces. En résumé, d'un point de vue purement géostratégique, la France a intérêt à être là où... Ou quoi ? Où le monde converge. Voilà. Bon. Non. C'est pas gagné, mais il y a un monde où... oui, bah oui, c'est pas... C'est la, disons, oui, t'as pas choisi le meilleur verbe. Bon. C'est pas grave. Ils ont pas fait exprès. Bon, à suivre donc. Hein. Bon, un seul mot, oui. Ce serait mieux de ta part d'être sur des news positives parce que se taper les unes tristes à mourir, il y a assez des médias pour ça. Ben oui, Lexa, c'est pour ça que cette chaîne est en train de devenir une chaîne de gaming. Ben oui, merci. C'est Lexa, tu es en train de contribuer au fait que bientôt, il n'y aura plus de revue de presse du tout sur cette chaîne. Hein. Si tu veux le journal des bonnes nouvelles, tu regardes le jeté de trésor de Jean-Pierre Pernaut. Ah non, mais il est mort, ça n'existe plus. Mais oui, la formation, ça n'est pas que des bonnes nouvelles, mon chouchou. Mais avec des messages comme ça, moi, je vais passer ma vie sur Valo. Hein. Faut arrêter un moment. Je crois que ça m'amuse, moi, de raconter tout ça. Je crois que ça m'amuse de me prendre un chat qui se déchire sur le Proche-Orient quasiment à chaque live. Tu crois que c'est un kiff? Tu crois que je me réveille le matin en me disant je vais encore m'en prendre plein la gueule quand je vais parler de sujets qui fâchent tout le monde? Tu crois quoi? Hein? C'est comme, voilà, comme le dit Taya, c'est malheureusement important. Voilà. Hélas, je suis le premier à en souffrir, moi, de ces informations. Hein. Ça m'amuse pas plus que toi. Hein. C'est clivant, mais essentiel, dit Roy Val. Voilà. Moi aussi, j'aimerais oublier tout ça, hein, franchement. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Ben, c'est 30 ans, moi, que je raconte des drames, des catastrophes, des problèmes sans solution, des crimes, des guerres, des conflits. Franchement, ça m'amuse pas des masses, en fait. Hein. Mais pour espérer qu'un jour ces problèmes soient réglés, bah, on est obligé d'en parler. Parce que c'est en parlant qu'on essaie de trouver des solutions, que les citoyens s'informent, voilà, qu'ils sont en capacité de mettre pression sur les politiques, peut-être pour les pousser à agir. Moi, j'adore Valo, mais si on passe notre vie à jouer à Valo, on va pas faire bouger les choses, quoi. Après l'élection du pape, il y, y a pire comme, comme histoire. En tout cas, au Vatican, là, ça se prépare. Il y a un petit article sur la préparation, là. Le conclave peut durer 13 jours. Ça, c'est intéressant. Merde, je vous mets l'article. Les derniers ont abouti au bout de 2 ou 3 seulement. Donc parfois, c'est très long, mais ces derniers temps, ça a été rapide. Et pendant ce conclave, qui peut durer jusqu'à 13 jours, les cardinaux sont tenus de vivre en vase clos. On doit couper tous nos téléphones, confie un cardinal français. Voilà. Ils n'ont pas droit de dire pour qui ils votent, d'ailleurs, il y a le secret du vote. Alors on sait ce qu'ils mangent, on sait ce qu'ils mangent. Merci Christophe pour les 5 abonnements offerts à la commune, tu régales. Merci Magatsu à Willpower pour le 3e mois. On sait ce qu'ils mangent. Voilà. En 2013, pour l'élection de Benoît XVI, leur repas préparé par les bonnes sœurs avait été frugaux. Soupe, légumes bouillis. Ouhou ! C'était pour ne pas les inciter à rester trop longtemps, avait dit un journal italien à l'époque. Arrêtez de dire qu'ils mangent des enfants ! Arrêtez de dire ça ! Ah, ils ont des petits jours de repos pour éviter les petits coups bas, ouais. Ouais. Il y a des petits moments de pause. Ok, bon bah on saura ça dans quelques jours, ça va aller assez vite. Ils n'ont pas de PC pour se faire un valo ? Non, je crois pas. Voilà. Bon bah voilà, grosse actu à venir quoi. Bon je vous avoue que bon, mon éducation catholique est assez lointaine, donc je ne suis pas un spécialiste ni un passionné de ces sujets, mais bon, au vu du poids diplomatique du Vatican... Et puis de l'importance de la communauté catholique à travers le monde. Je pense que c'est quand même, je pense que c'est important d'en parler à cette occasion quand même. Une prédiction sur le prochain pape ? Tu veux dire français par français ? Allez, let's go pour la Corse. Non, très, très, très bon call de Neo Passenger, alors qui est un peu risqué, parce que là, il y a une vraie incertitude. Neo Passenger nous dit « Ce pourrait être un homme, mais je te trouve un peu... T'y vas franco, là. Ouais. » Hein, peut-être. Il s'engage, ouais. Pas sûr, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et peut-être un catholique. Peut-être un catholique, peut-être un chrétien, peut-être un catholique, homme. Mais là, on s'engage un peu. Hein. Emma dit, c'est vrai, il n'y a pas de papesse. Ben, dans l'église catholique, il n'y a même pas de femme prêtre. Hein, donc, on est loin d'une papesse. Il faudra commencer par prêtre. Sub-goal du prochain The Event, tu te présentes à la prochaine élection du pape. Oui, bien sûr. Merci Andrea. Il y a un call pour Trump. Bon, Trump, il est candidat à tout, donc oui, pourquoi pas. Ah, c'est intéressant. Il y en a qui me dit, il y a eu une papesse une fois, elle avait menti sur son sexe pour pouvoir passer. Attends, incroyable. C'est pas la papesse Jeanne ou un truc comme ça, non ? Papesse. Papesse Jeanne. Ah non, ça c'est un personnage de fiction. J'ai encore inventé un truc. Ah non, si c'est ça. On me dit que c'est peut-être une légende. C'est une légende. C'est peut-être une légende. La papesse Jeanne. Jeanne. Es-tu un personnage légendaire ? A priori, c'est pas vrai. Qui au 9e siècle aurait accédé à la papauté en se faisant passer pour un homme ? Son pontificat sous le nom de Jean VIII est placé en gros au 9e siècle. Alors, vrai, pas vrai ? C'est une légende, ils disent que c'est une légende. Il s'agit d'une légende basée sur le fait que les... D'accord, ok. C'est marrant. Alors, il décortique comment est née la légende, c'est super, hein. C'est drôle. Mais qui a inventé l'histoire? C'est un dominicain de Metz, Jean de Mailly, hein, qui en parle la première fois. Et il dit à vérifier, lui-même il n'est pas sûr. Donc il y a un gars qui s'appelle Jean de Mailly, en 1255, qui dit c'est pas sûr. Il s'agirait d'un certain pape ou d'une papesse, c'était une femme se déguisant en homme, qu'il devint, grâce à l'honnêteté de son caractère, notaire de la curie, puis cardinal, enfin pape. Un jour qu'il montait à cheval, il engendra un enfant. Hein, quoi? Hein? Quoi? Et aussitôt la justice romaine lui lia les pieds et le fit traîner attaché à la queue d'un cheval. Hein? Il fut lapidé par le peuple, hein? Et on l'enterra là où il mourut. Quoi? Cette légende se propage rapidement sur une large étendue géographique, ce qui laisse supposer qu'elle existait déjà auparavant et que le dominicain soit contenté de la consigner par écrit. Bon, fake news en fait, c'était une fake news de l'époque. Voilà. Incroyable. La papesse Jeanne. Ok, bon, bah allez. Bah, vous savez, on a appris deux choses à l'instant. Un, qu'il y a eu une papesse. La papesse Jeanne. Deux, que c'est faux. Pas mal. Pas mal, je trouve. Deux infos. bon, voilà pour le pape. Bon, vous savez, voilà, deux en un. Voilà. Non, mais mais moi, je savais pas que c'était une légende. Je suis content que la personne ait posé la question. Andréa, je te remercie. Andréa Léo, merci beaucoup. Exactement, on a appris une chose fausse qu'on ne connaissait pas. Exactement. Voilà. Comme quoi, cette revue de presse est quand même d'utilité publique, les gars. On vient d'apprendre un truc faux qu'on ne savait pas. Alors, 7-7, ta formule, elle est magique. Et ça, c'est pas partout qu'on peut faire ça. Et ça, c'est beau, oui. Et oui. Oui, Shido. Et on vient d'apprendre qu'il y avait des fake news à l'époque. Eh ouais. Mais il n'y avait pas les chaînes d'info et Internet, tout ça, pour les amplifier, quoi. Ça ferait une bonne question pour un champion. Ouais. Et c'est depuis qu'à chaque intronisation d'un pape, me dit Matt Delour, il doit s'asseoir sur un siège percé afin qu'on le tâte et détermine s'il en a, elles sont bien accrochées. L'article qu'on vient de lire dit que ça aussi, c'est une légende, Matt Delour. Donc on vient d'apprendre qu'on vérifie à chaque élection les couilles du pape. Hein, et ça aussi, c'est une information qu'on ne connaissait pas et qui est fausse aussi. Pareil, deux en un. Oh là là, on nous regarde depuis Tahiti, Alex qui régale. Merci Matt Delour. Après le pape, Defecator nous dit qu'il faut aller voir le film Conclave. Mais attends, mais tout le monde me parle de ce film, attendez. Moi je vais voir le trailer de Conclave, la bande annonce. C'est quoi ce film? C'est quoi ce Conclave? Pourquoi tout le monde ne me parle de ce film là? Pourquoi tout le monde me parle de ce film? Il est pas mal? Il paraît qu'il est top? Avec Ralph Fiennes? Oh, il est incroyable cet acteur.
Comment cela a-t-il pu rester secret pendant tout ce temps?
Vous devriez prendre garde, Thomas.
C'est pas une guerre.
C'est une guerre!
Il y a un péché que j'ai appris à craindre. Par-dessus tout.
On devrait tous avoir honte.
La certitude. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi.
C'est pas mal en vrai, hein. En vrai, ok, d'accord, ok. Defecator, notre ami Defecator, dont je vous invite à suivre le travail sur Twitch et sur YouTube, dont la lutte contre la désinformation, nous disait que le film était vraiment ok, quoi. Ah, ça donne pas envie. Ah bah, ça manque de cascade de bagnole, on est d'accord, Denverino. Ça manque de ça, man, ouais, ça manque un peu de cascade tout court, même. Voilà.
Retrouvez votre magazine.
Hein, et puis de combat de sabre laser aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, j'aurais voulu voir Vin Diesel dans ce film. personnellement. Voilà. Pap and Furious, exactement. Vision de bonheur. C'est vrai que tu rajoutes 2-3 drifts, un peu de noces là, dans le scénario, ça change pas l'histoire globale et ça gagne un peu en dynamisme. Hein, oui, la papa mobile. La papa mobile. Tu mets un kit noces, tu lui mets des pneus taille basse un peu large, t'élargis un petit peu le train avant. Voilà. Bah oui, noces, le kit là, comme dans Fast and Furious quoi. Voilà, puis let's go quoi. Vous avez pas ça, vous avez pas un kit noce vous sur votre voiture? J'ai ça sur mon Duster moi. Bah, parfois je suis à 70 sur l'autoroute là, à fond de 5 là. Allons, j'ai une boîte 6 moi. À fond de 6 là, avec le coffre chargé, les enfants derrière là, elle avance pas là. T'as un moment là, et là t'as un mec qui vient me taquiner là, avec sa Golf GTI je sais pas quoi là. Je peux dire hop, chut. Hop, le noce, 110, paf, 130, comme ça, en moins de 10 minutes. Je veux dire que là, faut moins les malins, les foufous de l'autoroute. Satellisé, exactement. Je peux le tenir, je peux bien le dire, 30 secondes, moi, le 130, là. Non, ouais. Pour avoir une Dacia, enlève la clim en côte, ça aide. Oh, putain, là, je l'aime, ma Dacia, mais c'est vrai que... On est allé à la montagne avec Joe là, pour un tournage il n'y a pas longtemps. On était quatre dans la voiture avec le coffre chargé de matos. Moi j'étais à 110 sur l'autoroute sur une côte. Là, j'ai voulu relancer. la Vega missile, ouais. J'ai pas pu. Hein. Il n'y a pas en fait. Il n'y a pas les chevaux. Tu peux pas. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Voilà. Je me suis rabattu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kit noce, ceux qui n'ont jamais vu Fast and Furious, c'est ça en fait. Voilà. Noce, c'est dry nitrous oxide D. Voilà. Noce. Voilà. Donc, voilà. Ça peut même s'acheter. T'as même des sites pour l'acheter quoi. Allez Amazon, let's go quoi. Allez, bam, regarde, voilà ça. Moi j'ai ça moi. J'ai ça. J'en ai. Nitrous Oxide System, voilà. Voilà. Tous les gens qui ont regardé Fast and Furious, vous connaissez ça quoi. Voilà. Ça sert à quoi? Bah ça donne un petit coup de boost. Moi c'est ça qui permet de... C'est ça qui a transformé mon Duster en Vega missile quoi. Voilà. Moi j'ai 4 bouteilles comme ça dans le coffre. Voilà. Ça. Psh, psh. Parfois sur le périph', il y a des gars qui viennent me chercher un petit peu là, un petit peu énervé là. Je peux dire que ça fait pas vite le malin. Hein. La Dacia elle va sur la lune. Hein. Pardon. Ouf, pas beaucoup dormi moi. Putain, non. Il faut que je me dépêche dans une heure, je suis obligé de vous laisser. Ok, on a parlé du pape. Ça, c'est pas indifférent, exactement. Ouais. C'est un peu le Red Bull des voitures. Oui, c'est exactement, c'est très bien résumé. Voilà. Et si on était un peu sérieux et qu'on parlait de... Ah ! Des grèves à la SNCF. Ok. Bon, alors là, j'ai plusieurs dossiers à vous lire. On va essayer d'aller un petit peu vite. Alors, ceux qui ne savent pas, il y a peut-être des grèves à la SNCF cette semaine. On retrouve le Parisien, on va page 6. Voilà. Non, c'est pas là. C'est page quoi ? Page 10. Voilà. Conducteurs et contrôleurs de la SNCF, donc pour ceux qui ne le savent pas, sont appelés par la CGT et Sudrail, deux syndicats, à cesser le travail en cette semaine du 8 mai. Sarah, modératrice, vient de dire n'insultez pas, ok, sinon vous prenez un gros ban dev dans votre gueule de la part de Sarah et ce sera validé par papy. Si la direction s'attend à un trafic quasi normal sur les grandes lignes, des perturbations sont à prévoir sur le TER et le Transilien. Donc la circulation des trains cette semaine sur l'ensemble du pays devrait être mitigée. Hein ? La direction de la SNCF a écarté tout avis de tempête en cette semaine de grève. Donc vous avez la direction qui dit qui m'écrit, qui me parle. « des questions pour un champion. Donc, du côté direction, ça va aller. Hein, pas de tempête. Nous sommes loin d'une tempête noire. Il n'y aura pas de semaine à l'arrêt, mais une semaine aussi normale que possible, a dit le PDG de SNCF Voyageurs. Des perturbations sont néanmoins à prévoir et plus ou moins d'intensité selon les régions et les types de trains. Voilà. Ainsi, sur les lignes TGV Inouï et Ouigo, tout comme les intercités, la SNCF annonce un trafic normal jusqu'à jeudi. Pour le pont du jeudi 8 mai jusqu'à dimanche, un point sera fait en milieu de semaine. Voilà. Vendredi, ça devrait être compliqué. Ça, c'est la journée qui devrait être la plus compliquée. Voilà. Avec 40% des contrôleurs qui seront en grève. Ce n'est pas anodin, même si on est loin d'un raz-de-marée. La compagnie, donc la SNCF, a promis que d'ici à mercredi, chacun des gens qui ont réservé un train, des personnes, recevra un mail ou un SMS pour l'informer si le TGV ou l'intercité aller ou retour est maintenu ou non. Vous serez informé. Et si vous voulez changer votre billet, vous pourrez le faire gratuitement. Échanger ou annuler.
Ok.
Ok. La SNCF ne s'inquiète pas trop, puisqu'elle a mis en place depuis des années pour atténuer un système, pour atténuer les effets d'un mouvement social sur les usagers, système qui est particulièrement bien rodé, notamment pour les grèves de courte durée. Afin de pallier l'absence de conducteurs, elle dispose notamment des pools FAC, FAC pour facultatif, des groupes de cheminots qualifiés pour conduire plusieurs types de trains sur différentes lignes. Si officiellement ils permettent à la compagnie d'assurer le service partout en France en cas d'absence d'un conducteur, officieusement, ces agents mieux rémunérés sont très mobilisés pendant les grèves. Ah ouais ! Malin le lynx ! Et non, ça doit être tendu non, entre les grévistes et puis ces conducteurs-là, non ? Je savais pas que ça existait, quoi. T'as des mecs qui sont payés plus cher pour conduire des trains pendant les grèves ? Ambiance ! Vous saviez ça, vous ? Moi, j'apprends un truc, là. Alors, les contrôleurs, les conducteurs sont appelés à la grève, mais également les agents commerciaux, hein, au centre des revendications, parce qu'on va se pencher sur les revendications, quand même, l'organisation du travail, mais surtout les rémunérations. Et on y a... J'ai trouvé des articles ce matin qui sont assez clairs là-dessus, quoi. Voilà. Ah ben, d'ailleurs, il y a... Là, on a une interview de cheminot qui parle dans Le Parisien. Voilà. 52 ans. Entré à la SNCF en 99. Salaire net mensuel, donc, à ses débuts, entre 1600 et 1800 euros. Puis il est promu. Et là, maintenant, il gagne 2800 euros par mois. Et j'ai l'impression qu'il parle de net. Voilà, aujourd'hui, il a 52 ans. Bon, je vais vous montrer un article qui se penche un petit peu sur les raisons de la colère. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir deux articles. Un dans Le Figaro, un dans L'Humanité, et pas du tout, évidemment, la même analyse. C'est la une du Figaro, regardez, qui est très pro-usager et pas trop fan de cette grève. La une du Figaro qui nous dit « SNCF, les passagers encore victimes du chantage à la grève », avec, hop, un édito, « La loi du racket ». Alors, quelque chose me dit que... Gaëtan de Capelle, qui a signé cet édito, l'édito, on rappelle, c'est un papier où le journaliste donne son avis, eh bien, il va y aller franchement contre les... Les commentaires dans le chat, parfois, je... The Great Boaco, là, je sais pas ce qu'il me fait, là. Merci, Clémakine. La loi du racket. Lisons. Pour le bien de la planète, laissez votre voiture et prenez le train, serine-t-on à longueur de journée aux automobilistes. C'est pas faux. Ces bêtes noires de la civilisation moderne à qui on interdit l'entrée des centres-villes. Figaro, ils sont assez bagnoles. Hein. Voilà. Merci du conseil. Même les plus dociles risquent de ne pas y accéder cette semaine, victimes d'une nouvelle grève à la SNCF qui empoisonne des millions de familles. Quel péril menace donc l'entreprise publique pour provoquer un tel barnum ? L'emploi est-il en danger ? Le statut enviable de cheminot est-il sur la sellette ? Le rail est-il laissé pour compte ? Rien de tout cela. Un logiciel de gestion des plannings ne convient pas en contrôleur et les conducteurs, après avoir empoché leur dû, exigent de nouvelles revalorisations salariales. Figaro, ils sont pas très pro-mouvement, quoi. En deux mots, ce mouvement purement corporatiste est un scandale. Allez, let's go. Il symbolise la conception du syndicalisme radical pratiqué par la CGT et Sudrail dans l'entreprise la plus subventionnée de France, qui n'a pas connu une année sans grève depuis 1947. Cette méthode porte un nom, deux points, le racket. Bam ! Les Français en ont ras-le-bol de ce qui se passe à SNCF, observe le ministre des Transports. Bien vu, il demande que l'on répare les services publics, pas qu'on les saccage. Même au pays des Gaulois réfractaires, attachés aux droits syndicaux et prompts à manifester, la patience a des limites. Une majorité d'entre eux se dit favorable à l'interdiction des grèves pendant les ponts et départs en vacances. Il y a quelques mois, le Sénat a justement voté une proposition de loi pour les encadrer durant ces périodes tendues dans les transports, comme cela se pratique en Italie. Personne n'en entend plus parler. François Bayrou ambitionne de consacrer chaque jour qui passe à réformer le pays dans ce qu'il y a de plus archaïque. Il songe, lorsque le sujet nécessite un consensus national, à consulter le peuple par référendum. La lutte contre la gréviculture à la SNCF pourrait constituer un magnifique galop d'essai. Bon, le Figaro n'est pas un journal qui porte un regard enthousiaste sur les mouvements sociaux, ça n'est pas une surprise. Allons voir un petit peu dans le détail, page 22 je crois, ce que dit le Parisien, et après on ira lire l'Humanité qui n'est pas du tout du même avis, quoi. On a pris un nouveau mot ce matin, effectivement, la gréviculture. L'éternel sondage à la grève. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que bon, l'article va reprendre sans doute à peu près l'essentiel de l'édito, mais vous avez un petit encadré en bas à gauche, là, vous avez vu, sur les avantages. Figaro estime manifestement que les cheminots ont trop d'avantages et qu'ils ne devraient pas faire grève. Primes multiples, logements, tarifs préférentiels, ces très précieux avantages dont bénéficient les contrôleurs et conducteurs de la compagnie. Let's go. 4 mois après les négociations salariales mouvementées de la fin 2024, outre une amélioration des rythmes de travail et la gestion des plannings, les agents du rail réclament une revalorisation de leur prime de travail pour les contrôleurs et une prime de traction pour les conducteurs, soit deux éléments clés de leur rémunération. La direction, elle, martèle qu'au cours des 4 dernières années, la rémunération des cheminots a augmenté en moyenne de 19% contre 14% pour l'inflation. Concrètement, combien gagne-t-il ? À cette question, difficile de répondre, tant il existe des disparités importantes d'un cheminot à l'autre. Le système de rémunération de la SNCF est actuellement une usine à gaz. Les salariés sont divisés entre statutaires et contractuels. Depuis le 1er janvier 2020, la SNCF ne recrute plus au cadre permanent. Alors, depuis 2020, la SNCF n'embauche plus statutaires, ceux qui avaient les avantages, quoi. Et n'embauche plus que des contractuels qui ont beaucoup moins d'avantages. Voilà. Ça, c'est depuis 2020. Donc, progressivement, avec le départ à la retraite des cheminots les plus anciens, bien, dans quelques années, il n'y aura plus de cheminots qui avaient les anciens avantages. Voilà. Là, par exemple, d'ici 2030, on sera sur du 50-50. L'une des principales différences entre les deux catégories, c'est le régime de retraite, qui est un régime spécial de retraite, qui permet aux cheminots statutaires un départ anticipé. Donc attention, quand on parle des cheminots, on voit que déjà, ils n'ont pas le même statut, quoi. Ça joue au niveau de la rémunération aussi. Bon, en fait, le Figaro, je vous résume l'article, dit qu'il y a plein de primes pour des motifs divers et variés, qu'en fait, il y a un salaire de base, mais qui ne représente qu'une partie de l'amélioration des cheminots, et qu'après, il y a plein de primes, voilà, parfois un peu étonnantes, et que c'est un peu abusé. Sauf que le Figaro ne nous donne pas de salaire global. C'est ça qui nous manque dans le sujet, d'ailleurs. Là, il nous manque quelque chose. Un peu plus loin, peut-être. Non, même pas. Bon, on aimerait savoir ce qu'il gagne, quand même. Voilà. Allons voir l'humanité, justement. Allons voir l'humanité. L'humanité, page 10, sur ce même sujet. Merci à Turizio. Page 10. Alors, l'humanité, journal de gauche, lui donne plutôt la parole au syndicat, qui dénonce une flexibilité accrue des temps de travail et réclame une révision des primes. Alors, la mobilisation sociale, cheminote, s'appuie sur deux revendications principales. La CGT et Sudrail dénoncent les conséquences de l'instauration, le Figaro en parlait, des logiciels Score et Astuce courant 2024 qui poussent la flexibilité des emplois du temps du personnage roulant à l'extrême. Avant, nous avions une visibilité d'un an sur nos roulements, sur nos calendrier de travail, quoi. Avec ces logiciels, ce délai est ramené à 3 mois. Plus encore, il est très fréquent que nos services soient modifiés 24 heures à l'avance. Donc, trop de flexibilité selon eux, quoi. Florian nous dit « Je suis conducteur à la SNCF, il faut savoir que les primes représentent un tiers du salaire à la traction, sauf que c'est tellement incompréhensible qu'on ne sait jamais si tout ce qu'on doit percevoir est payé. Et c'est impossible de comprendre quelle tâche est payée combien, c'est un vrai casse-tête. » Merci à toi. Les conducteurs et contrôleurs sont soumis au bon vouloir de l'offre de train, avec des conséquences concrètes pour la vie privée, familiale, des collègues, pour s'occuper des enfants et anticiper des rendez-vous médicaux. Voilà ce qu'ils dénoncent. Difficulté qui s'ajoute aux fortes contraintes déjà exigées par ces métiers. Ainsi, à cause du découchage, un conducteur passe environ 5 années hors de chez lui en 35 ans de carrière. Sans compter le travail de nuit. Donc, la flexibilité, hein, et second axe de revendication, la rémunération. Sudrail réclame une hausse minimale de 100 euros des primes de traction des conducteurs et des primes de travail des ASCT. Sauf que la direction répond que depuis 2022, l'inflation a augmenté de 14% et la rémunération moyenne des salariés de la SNCF de 19%. Alors les syndicalistes ne sont pas d'accord, ils rigolent un petit peu et ils disent « Je pense qu'un jour la direction annoncera que les cheminots ont été augmentés de 50%. » Tout le monde avalera cet élément de langage. La vérité est que les chiffres sont invérifiables puisqu'ils prennent en compte l'ensemble des évolutions, notamment l'ancienneté. Les augmentations de salaire brut cotisables pour la retraite se font attendre, répond le responsable de la CGT. Comme ça, vous avez deux regards. Je vous lis un petit peu. Merci, Mavidous. Perso, je suis chef de gare dans une gare TGV. C'est cool d'avoir des gens directement concernés par notre sujet. On se fiche de nous la direction. On me doit encore quasiment 3000 euros sur l'année. Au final, en interne, c'est très difficile d'avoir gain de cause sur des droits. Et pourtant, c'est nous qui nous faisons insulter à longueur de temps. Force. Force à toi. Gladys nous dit « J'ai été cheminot pendant près de 20 ans dans la maintenance. Je n'ai jamais fait grève de ma vie. » Tous les cheminots ne font pas grève. Bon, les amis, à voir en tout cas. Deux. Pardon, la réalité de l'importance de ce conflit social. La direction semble minimiser en disant que les perturbations ne vont pas être très importantes. À voir, en tout cas, a priori, l'info, c'est que, normalement, si vous avez des billets de train pour les prochains jours, s'il y a un souci sur votre voyage, ça, c'est un vrai progrès, en fait. Moi, j'ai vu ça ces derniers temps. Normalement, vous recevez un mail ou un SMS pour vous prévenir, quoi. Ça, c'est plutôt cool, en vrai. Je sais pas si certains ont prévu de bouger un petit peu en train. Le souci ici, c'est que la grève éclabousse les usagers à chaque fois. Bah oui, par définition, oui. Oui. Oui, si tu fais grève sur ta mobilette perso, ça va moins éclabousser parce que tu transportes personne, en fait. C'est assez logique, ouais. Samuel, si on a prévu de bouger et qu'il y a grève, est-ce que tu nous prêteras ton jet privé ? Oui, Cyril, bien sûr. J'ai annulé mes billets aujourd'hui et reste en télétravail. Pas envie de rester bloqué au taf, me dit Milhomme. Merci, madame Nico. Choupi, Samuel, de toute façon, ils font pas grave grève chez toi à Dubaï, de toute façon. Non, il y a très peu de grève ici. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça me harcèle, là. Ok, bon, il me reste une petite demi-heure. Bon, je me dépêche. J'ai envie de me faire un café, moi, mais il faut pas. Résiste, Samuel. Peut-être me faire un thé, par contre. De la SNCF, je vous emmène. Oh, gaspillage alimentaire. Le dossier de la Croix a l'air pas mal, en vrai. Alors, c'est pas top, c'est pas parfait, mais on progresse sur le sujet, manifestement. Une bonne nouvelle. Alors, vous êtes nombreux, vous avez raison à me dire, Samuel, il n'y a que des mauvaises nouvelles dans la presse, dans les médias, dans ta revue de presse. Mon chouchou, essaye de nous trouver des bonnes nouvelles. J'en ai une, petite, voilà. Encore trop de gaspillage alimentaire, mais en fait, ça progresse. Il y a du mieux. Alors, on peut être en mode pessimiste, en mode voilà, le verre à moitié vide. Essayons de voir la poubelle à moitié pleine, comme ici. Les initiatives d'associations et entreprises se multiplient pour limiter les déchets. Dans les foyers, les pratiques évoluent, mais lentement. Les amis, je vais aller me faire un petit thé. Je vous mets pas de pub, je vous mets pas de musique, j'en ai pour 10 secondes. Okay, je vous laisse entre vous. Voilà, je vous laisse même l'article. Vous pouvez même lire, pour ceux qui ont une très bonne vue, vous pouvez même zoomer là sur l'édito. Quoi. J'en ai une petite. Qu'est-ce que j'ai dit ? De quoi ? J'ai dit quoi ? J'en ai une petite ? J'ai dit quoi ? C'était quoi la phrase exacte ? Parce que j'ai oublié. Là. J'ai dit quoi ? J'en ai une petite quoi ? J'ai dit quoi ? J'ai dit une bêtise. Merci Alex02. Merci madame Nico. Ah, une petite de bonne nouvelle. Ah oui. Ah oui, j'en ai une. Ah oui, bah oui, de bonne nouvelle. Ah oui. C'est dingue ça. J'arrive les beaux gosses. Pardon Sarah ? Non mais c'est pas parce que je suis debout que je vois pas le chat hein. Non mais... L'eau est en train de chauffer, je viens vérifier le chat. Hein ? Parce que quand le chat est parti, les souris dansent. Hein, je suis sûr que... Voilà. Non, ça va ? Tout va bien. Ok. Ok. D'accord. On surveille... Ok. Débalancé par Sarah, un petit zizi, c'est en dessous de combien de centimètres ? De mètres ? Ah, de mètres ? 5 mètres ? Oh là là. Mais c'est pas possible, cette communauté. Hein. C'est pas possible. Hein. Non, ça va pas du tout. Hein. Oh non. Sérieux ? Sérieusement, quoi ? Vous avez été sage ? Bon. Hein, quoi ? Alors, un début de bonne nouvelle peut-être. Voilà, on progresserait en France sur la question du gaspillage alimentaire avec des initiatives qui se multiplient côté association, côté entreprise et des pratiques qui évoluent dans les foyers notamment, lentement, mais qui évoluent. Poussé par la réglementation, et oui, parfois la loi a du bon, associations et entreprises multiplient les initiatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ici, on gaspille tellement peu d'aliments dans ce studio de stream qu'il n'y a pas un truc à bouffer. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas une cacahuète, il n'y a pas un crocodile Haribo, il n'y a que dalle. Je meurs de faim, j'ai du thé. Je vais finir par bouffer mes sachets. Donc là, c'est vrai qu'ici, ça ne gaspille pas. Il n'y a rien. C'est honteux. Il n'y a rien. J'évite de grignoter. Il n'y a plus de bonbons, il n'y a plus de chocolat. C'est un enfer. Ma vie est un enfer. Environ 10 ans après la loi contre le gaspillage alimentaire, les initiatives des associations et entreprises se multiplient, mais les résultats peinent à... Mange des arbres. Comme le monsieur tout à l'heure. Putain, si j'avais un arbre sous la main, je le boufferais. Mais les résultats peinent à suivre, les Français continuent, dites donc les Français, de jeter beaucoup, surtout chez eux, les foyers restant les premiers gaspilleurs du pays. Pop. Ce seraient donc les particuliers et pas les professionnels qui gaspillent. C'est incroyable. Joli. Hein. Bon, là, il parle de l'application Too Good To Go, notamment, hein, qui a eu beaucoup de succès, créée en 2016 pour mettre en relation commerçants et consommateurs pour acheter des invendus à prix cassé. Elle revendique aujourd'hui plus de 15 millions d'utilisateurs en France. C'est vrai, Too Good To Go, c'est plutôt pas mal, quoi. Cela témoigne de l'intérêt grandissant des consommateurs pour ces pratiques, qu'ils soient en difficulté financière, sensibles à l'aspect environnemental de leur consommation ou simplement curieux de découvrir des produits pas chers destinés à la poubelle près de chez eux. Nos utilisateurs pratiquent l'anti-gaspi, c'est tout ce qui compte, dit la DG de Too Good To Go. Dans les locaux d'entreprise, un compteur affiche blablabla, bon ça c'est du blabla. Voilà. Donc c'est un bel accomplissement, c'est très très bien, voilà. Mais ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des 4 millions de tonnes de denrées comestibles jetées chaque année en France. Hein. Si nous avons réalisé beaucoup de progrès dans les textes et dans les têtes, il reste un long chemin à parcourir jusqu'aux assiettes. Constate un député qui s'appelle Guillaume Garot, qui est rapporteur de la loi qui porte son nom, je crois. Ouais, qui en 2016 a fait de la France le premier pays... Mais Cocorico a légiféré contre le gaspillage alimentaire. Nous serions le premier pays dans le monde qui aurait légiféré contre le gaspillage alimentaire. Car c'est en bout de chaîne qu'on gâche le plus. En France, 40% du gâchis provient des ménages, mesdames et messieurs. Eh oui, hein. Là, c'est, voilà. On aime bien reporter la faute contre eux. Ah oui, mais ça, c'est les entreprises, c'est les ménages, mesdames et messieurs. C'est en bout de chaîne. Bon, toi, c'est normal, c'est là aussi qu'on consomme. C'est assez logique. Chaque Français jette 24 kilos d'aliments comestibles dans l'année. L'équivalent de 100 euros par habitant finissant à la poubelle. Un comble quand on sait que gaspillage et insécurité alimentaire vont de pair. Les personnes qui jettent le plus de nourriture sont aussi paradoxalement celles qui rencontrent le plus de difficultés financières pour se nourrir. C'est incroyable ça. Indique Pascale Ebel, qui est directrice associée d'un cabinet de conseil. En tête, les étudiants. Quoi ? Ça n'a aucun sens. Paradoxalement, plus d'un tiers d'entre eux déclarent sauter un repas souvent ou de temps en temps par manque d'argent. Dit l'IFOP. La faute d'un un défaut d'espace de stockage dans leur logement. Ah, bah oui. De congélateur ou de connaissances et d'ustensiles de cuisine pour valoriser. Ah ouais. Ils n'ont pas forcément de frigo, ils n'ont pas forcément de congèle, ils ne savent pas forcément cuisiner. C'est des bras cassés, quoi. Et du coup, bah, ils jetteraient pas mal, quoi. Eh oui. Eh oui. Mais ce gâchis n'est pas tant le reflet d'une insouciance que des changements de mode de vie à l'œuvre dans notre pays. Nous gâchons moins que dans les années 70, par exemple. Nous ne prévoyons plus nos repas, nous mangeons à l'envi, nous passons moins de temps autour de l'alimentation en général. Épicerie anti-gaspillage au coin de nos rues, emballage pour emporter les restes de son repas au sortir du restaurant. Oh, j'adore faire ça, moi. Moi, un resto qui ne te propose pas d'emmener la moitié de ton plat que tu n'as pas mangé, c'est, ça me... À une époque, il y avait des restos qui disaient, non, j'ai rien, j'ai pas de petite boîte, j'ai pas d'alu. Maintenant, tous les restos, ça a beaucoup changé. Ça. Moi, je suis vieux, je peux vous témoigner de ça. Les doggy bags, tout ça. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, quand votre enfant il laisse la moitié de la pizza ou vous-même, vous n'avez pas très faim et tout, vous demandez au restaurateur, c'est une obligation. Ah ouais, mais à une époque, ils sont tamponnés le coquillard. Hein. Ils sont obligés. Ah, c'est obligé maintenant. Parce qu'avant, c'était compliqué. Hein. Les gens n'osaient pas, les restaurateurs, ça les saoulait et tout, quoi. Ouais. Bah, c'est très bien, ça. Moi, on ramène toujours nous. Les pictogrammes observés, santé, goûter sur l'emballage de millions de produits, nul doute, notre société évolue sur le sujet. Nos marges de progrès sont réelles, assure Laurence Gouttière, chargée des études sur le sujet à l'ADEME, l'Agence de transition écologique. Voilà. Mais, bon, des progrès, mais, merci Krios24, merci à toi. Le bilan de chasse au gaspillage est loin d'être satisfaisant. Si on en croit les chiffres de l'ADEME encore, la quantité de déchets alimentaires en France n'a pas baissé entre 2016 et 2022. Et avoisine toujours les 10 millions de tonnes. Donc c'est un relatif échec. Ça baisse pas tant que ça, quoi. Okay. Waouh ! Il y a aussi le côté du don des aliments, là. Ça, c'est incroyable. Et je sais que ça vous a un petit peu intrigué, et moi aussi. Ça, c'est dans La Croix, mon mix. C'est la une de La Croix, regarde. C'est la une de La Croix ce matin. C'est sur le don, là. À la suite du licenciement à la mi-avril de 4 employés de restauration rapide de l'aéroport de Marseille pour avoir donné des sandwichs invendus à des sans-abri aux personnes de l'aéroport, une question se pose. Il y a des gens dans une enseigne de restauration rapide, je ne sais pas laquelle, ils ne donnent pas le nom, l'aéroport de Marseille, qui ont été licenciés parce qu'ils ont donné des sandwichs à des sans-abri. Eh ben dis donc. Donc la question se pose, dit La Croix, pourquoi est-il si difficile de donner des aliments invendus, pourtant encore consommables, mais destinés à la poubelle ? On va aller chercher, nous. On va chercher. Aéroport, let's go. Et aéroport, Marseille, licenciement. On cherche, nous. On dénonce. Sandwich. France Info. Ah, ça a duré plusieurs années. Pendant plusieurs années, ils ont donné à des sans-abri des sandwichs invendus destinés à la poubelle. Ils donnent pas la... Ils disent pas le nom de la chaîne de restauration, par contre, hein. Le Figaro. Tu nous le donnes, le Figaro ? Je sais pas, ça dit Starbucks, là. Putain. Là, ça parle de Starbucks, là. Et prête à manger aussi. Attends, je vérifie. Faut pas accuser. France Bleu. Ça, c'est carré. Ah ouais, c'est ça. Prête à manger, Starbucks. Ouais, tout à fait. Ouais. Vous avez raison. Attendez. Groupe ou franchisé. Ça aussi, c'est important. Ah. C'est deux choses différentes, hein. Vous voyez ? Politique de groupe ou politique de franchisé, tu vois. C'est le groupe SSP. Alors, hop, et nous, on est un peu des coquins, donc on va aller voir. Groupe SSP, est-ce que c'est le groupe, tu vois, ou est-ce que c'est un des indépendants ? Non, je suis sur leur site. C'est un groupe britannique. Acteur international de premier plan reconnu en matière de restauration commerciale, concédé sur les sites de transport, gare, métro, aéroport et autoroute. C'est pas le groupe... Ok. C'est pas le groupe... À moins que Prêt-à-Manger soit que dans les aéroports. Que dans les trucs. C'est le groupe SSP, quoi. Voilà. En tout cas, l'enseigne ne prête pas à manger. Ouais, exactement, ouais. C'est la filiale française du groupe SSP, précise Libération de l'Antarctique. Ok, d'accord. Ok. Choupichon nous dit, merci mon ami. Quand je faisais sentinelle à Orly, Starbucks est prête, donc en matière de sécurité, c'est ça. Hein, Starbucks est prête à manger, nous donner les invendus chaque soir et en nous en signe. Un jour, ils l'ont pas fait, ils nous ont parlé à la pause clope, ils devaient arrêter et faire profil bas car une énorme soufflante était tombée. L'argument, ils s'occupent de notre sécurité et prennent des risques, a été retoqué par ils sont payés pour qu'ils s'achètent à manger, sinon ils ne valent pas mieux que les mendiants. Hop, 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 hop. Ok. Merci MMG. SSP, donc. Un portefeuille de marques partenaires comme Starbucks, Burger King, Prête à manger, Brioche dorée. Ok, ok, on a l'info. Merci MMG, tu régales. Ok, ok. Donc c'est ça en fait. En fait, c'est pas Starbucks, c'est pas Prête à manger. Ils sont travaillés avec des marques partenaires. Ok, très bien. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi c'est interdit, quoi. Est-ce que c'est interdit par la loi, déjà ? Hein ? On va se pencher sur le dossier de la Croix, peut-être, parce que peut-être qu'il va répondre à pas mal de questions qu'on se pose. Donc, une question se pose, nous dit la Croix. Moi, j'aime bien prendre le temps aussi d'aller vérifier les informations. Pourquoi est-il si difficile de donner les aliments invendus, pourtant encore consommables et destinés à la poubelle ? En France, des conventions déterminent quelles denrées et dans quelles conditions les industriels, les grossistes, les distributeurs, les restaurateurs peuvent donner aux assos habilités. Les aliments périssables doivent être donnés au moins 48 heures avant l'échéance de leur date limite de consommation. Il y a des règles très strictes. Pour les denrées d'origine animale, seuls les produits sous emballage, conditionnés ou estampillés d'une pastille certifiant l'agrément sanitaire peuvent être donnés par les grossistes, blablabla, blablabla. Toute cette réglementation serait-elle trop stricte ? Pour Marie Mourad, docteur en sociologie, autrice d'un livre sur le gaspillage alimentaire en France et aux États-Unis, oui, certaines règles devraient être assouplies. Voilà. Sortir une salade 2 heures du frigo, c'est officiellement rompre la chaîne du froid, dit-elle par exemple. Les traiteurs, les buffets, les bars à salade ne peuvent pas donner de plats, même non entamés, dès qu'ils sont sortis. La sociologue dit que ça peut être très frustrant quand même. Certains supermarchés qui avaient l'habitude de donner à des petites associations, pardon, ou à des particuliers, ont abandonné ces pratiques pour donner à des associations habilitées. Avec la défiscalisation des dons, les entreprises ont en effet intérêt à privilégier les conventions de dons auprès d'associations habilitées. Il y a aussi une histoire de responsabilité. Elles n'ont rien à gagner aux dons informels, car dans ce cas, elles endossent la responsabilité du risque sanitaire, même si le risque est très faible. En pratique, on n'a jamais vu un SDF poursuivre un supermarché en justice après être tombé malade à cause d'un sandwich donné. Explique la chercheuse. La chercheuse qui estime qu'il faudrait mieux protéger les donateurs. Aux États-Unis, par exemple, il y a une autre règle qui a l'air... en vrai, mieux, qui est la règle du bon samaritain, en vigueur aux États-Unis. Attends, excusez-moi, je dézoome, voilà. Outre-Atlantique, celui qui donne de bonne foi dans le respect des règles sanitaires n'est pas responsable du produit une fois qu'il l'a donné. Ouais. Et en France, manifestement, c'est pas le cas. Allonger les dates limites de consommation, voire les supprimer pour certains produits, permettrait de réduire le gaspillage. Certains yaourts, fromages ou encore certaines charcuteries de longue conservation peuvent être consommés après la date de limite de consommation indiquée. Indique la chercheuse, cela permettrait non seulement aux entreprises de mieux écouler leur stock, mais aussi d'élargir la fenêtre pendant laquelle les dons sont possibles. Je vous lis. Nous, au stade après les matchs, me dit Minuna, on nous donne des sandwichs pour les distribuer nous-mêmes au SDF pour que ne ce soit pas la responsabilité du stade. Azaer nous dit, personnellement, je travaille en cuisine dans une maison de retraite, GG à toi. Quand j'ai du reste de nourriture ou plat en sauce, je ne me gêne pas à le donner au personnel au lieu de le jeter. Même si théoriquement, j'ai pas le droit. Bravo, en vrai. Je travaille dans le secteur alimentaire. Donner aux nécessiteux demande un process complet, surtout compliqué à suivre. J'aimerais pouvoir donner au SDF proche de chez moi, mais je prendrais un risque qu'au réel, j'ai déjà pris, me dit Dracula. Alors, Fabrice nous dit, pour votre information, je travaille en cuisine dans un hôpital. Où ils préfèrent jeter que donner pour plusieurs raisons. La première est le procès des gens qui portent plainte pour aliments avariés. Voilà. La deuxième, et qui est le plus important, c'est qu'il faudrait soi-disant du personnel pour gérer ça en plus de chambres froides. Mais je vous avoue que ça ne les dérange pas de jeter des poubelles entières de bouffe par jour.
Ah.
Ok. Un Twisted Art, lui, est milite avec vigueur et énergie contre le gaspillage alimentaire, notamment liquide. Quand j'étais étudiant, que j'étais serveur en club de vacances, on sifflait les bouteilles de rosé pas finies sur la plage le soir. Bravo, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est cette France-là qu'on veut. Voilà, plus le gaspillage, exactement. Tu te promènes dans la rue, tu passes devant une terrasse, il y a un verre de bière qui est à moitié plein, un fond de rosé, ni vu ni connu, paf, voilà. Et tu le fais pas parce que t'es alcoolique. tu le fais pas parce que t'es un gros rat et que t'as envie de te prendre ton petit galopin. Non, tu le fais pour la planète. Hein, tu le fais pour le gaspillage alimentaire. Voilà. Et moi, je trouve ça très très beau. C'est l'abnégation. Ça, c'est la France que j'aime. Ça, bravo les gars. Voilà. Finissons les verres. C'est du don de soi. Oui. Et c'est l'hydratation. J'irais même plus, c'est du sacrifice. C'est la pyrobique, exactement. Bon, bah les amis, bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça progresse, mais manifestement, c'est pas mal ça. Salamèche. Bonjour Samuel, je suis bénévole dans une association de distribution alimentaire. On récupère beaucoup auprès des grandes surfaces, boulangeries, etc. Par contre, on est légalement responsable de ce qu'on donne. Voilà. Donc on essaie de donner un maximum, mais parfois on doit jeter parce qu'on n'a pas le droit de risquer de donner un mauvais produit. Okay. Donc manifestement, voilà, ça progresse, les amis. Au niveau, pensons qu'au niveau particulier, manifestement, ça gaspille beaucoup. Moi, je suis un peu un gros rat là-dessus. Je suis le premier à fouiller dans la poubelle familiale. Parfois, je passe dans la poubelle, je vois des trucs qui sont jetés là, ça jette un peu vite. Et pop, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais récupérer. Et ouais, je fais les poubelles chez moi. Non, c'est vrai. Je déteste qu'on jette de la bouffe. Moi, il y a des gens qui ont bossé pour produire cette bouffe et tout. Moi, ça me met hors de moi. Je vais dans la poubelle et voilà. Et puis, je rentre de stream et ça me fait mon dîner. Hein, voilà. Ça, oui, parfois la DLC est un peu dépassée. Ok. Parfois, le ventre va un peu travailler derrière. Ok. Je vais peut-être passer une heure sur les WC avec mon iPad à la suite de ce petit dîner improvisé. Ok. Mais je déteste jeter de la bouffe. Quoi. Ça, c'est un truc, ça me rend dingo, ça. Après, qu'on donne pas aux enfants un produit dont la DLC est dépassée, les petits, je crois qu'ils sont plus sensibles que nous. Je pense que le circuit digestif, il est moins mature et tout. Je pense que les petits, ok. Mais le daron, il finit tout. Hein. Moi, je peux dire, le jambon là, qui a pris 15 jours, là, qui commence à avoir des petits reflets, allez hop, ça se dégomme ça. Hein. Hop. Tu mets du Chris Pauls, un peu de beurre salé pour faire passer le goût, ça pique un peu, mais ça passe. Hein. Non, moi, rien ne me fait peur. Moi. Au goût, de toute façon, le corps est bien fait, au goût, tu le sens si le produit... en vrai... odeur et goût, hein. t'as un doute, un petit coup de nez. Bon, parfois il y a des produits au parfum qui te donnent pas d'infos. Bon, t'y vas, t'attaques. Bon, parfois t'as une petite réaction en bouche, ça part en champagne, un truc un peu zarbi. Bon, bah tu recraches direct, tu dis ok, là j'étais un peu ambitieux sur ce coup-là. Bon, allez. Hein, parfois je vais chercher dans la poubelle et puis bon, ça y retourne. Hein, je me dis oula, bon là c'est voilà. Mais faut. Tester, c'est tricher, faut direct attaquer le morceau. Non, non, non. Donc chez nous, on jette pas trop, quoi. Voilà. Il y a poubelle à tort, c'est moi, je passe derrière, quoi. Voilà. Regardez, sentir, goûter, comme le dit Cyril, si t'as pas de problème, tu manges. Bah, bien sûr, ouais. Comment ça, le poulet qui est devenu marron, ça rajoute du goût? Non, Mirk, quand même. Non, Mirk. Towoli, je t'ai remercié? Je sais plus. Une fois, j'ai eu un yaourt qui était devenu pétillant. J'ai vite arrêté de le manger, me dit Picsou. J'adore. Mais oui, puis ça endurcit le système immunitaire, bien sûr, sur la re-hype. Très beau pseudo. Alors, j'accélère. Dans 10 minutes, j'ai mon taxi pour aller bosser. Qu'est-ce que j'ai? Faut que je me dépêche. Ah oui, vite. Attends. Olivier Mine, le Parisien. Édition de dimanche. Ouais, Olivier Mine, qui part de France Télévisions. Bon, l'actualité des médias, moi, j'en parle pas trop. C'est un peu nombriliste, les journalistes qui s'intéressent aux journalistes ou aux animateurs, bon. Mais en vrai, là, c'est un vrai truc. Olivier Mine, c'est quand même, pour moi, au bas mot, c'est 30 ans de France Télévisions, ça. Il est où mon Olivier, là? Le transfert que personne n'avait vu venir. L'animateur emblématique de Fort Boyard, mesdames et messieurs. Depuis 2003. Donc 2003. On est en 2000... Oui, sauf qu'en fait, il était à France Télévisions depuis bien avant. Quittera France Télévisions pour M6. À la rentrée, son visage était très connu des spectateurs et il se sentait peu considéré en interne. C'est un super gars, Olivier Mine. Ouais. Je m'attendais à tout dans ce mercato sauf à ça. Vendredi, l'annonce du départ pour M6 d'Olivier Mine a scotché plus d'un salarié de France Télévisions. L'animateur qui avait commencé sa carrière comme speaker sur Antenne 2 il y a 35 ans n'a quasiment jamais quitté le service public. Comme Michel Drucker, il faisait partie un petit peu des meubles et beaucoup à France Télévisions pensaient imaginer travailler avec lui jusqu'à leur retraite. Discret, c'est un garçon discret. L'animateur se classe parmi les bons élèves, ceux qui font bien leur travail sans se répandre dans les journaux, dont il fait rarement les unes, c'est vrai. Et pourtant, grâce à Fort Boyard qu'il présente depuis 2003, il avait acquis une popularité à faire pâlir plus d'un visage du PAF. Voilà. Et son jeu quotidien, tout le monde a son mot à dire, que je connais bien parce qu'il est en phase de Questions pour un champion. Nous sur France 3 et lui sur France 2, excellent jeu et excellent animateur. Avec, ils sont deux, il y a Sidonie Bonnec. Oh, je suis nul. Sidonie Bonnec, Bonnet. Ils sont deux. Il y a Olivier et Sidonie Bonnec. Ah ben je l'avais. Ok, bon je l'avais. Sidonie Bonnec. Voilà. Excellent jeu. N'a rien à envier à ceux diffusés à des heures de plus grande écoute. Alors à France Télévisions, on est tombé des nues ce vendredi en lisant le bref communiqué de bienvenue envoyé par M6 à 15h30 en plein bond du 1er mai. Blablabla, ils sont très heureux d'accueillir M6 Olivier Mine, son expérience, son professionnalisme et le lien fort qu'il a su créer avec les téléspectateurs au fil des années. Alors, on apprend par Le Parisien, Benoît d'Aragon, c'est un excellent journaliste spécialisé média du Parisien, qui a un très joli parcours sur ce sujet, qui bosse bien ses sujets, et on apprend grâce à lui, dans Le Parisien, qu'il y a eu une prise de contact en début d'année, alors que la chaîne M6 commence à relancer les uns après les autres des jeux mythiques, le juste prix, la roue de la fortune, mesdames et messieurs. Voilà. Recrutement qui se décide en quelques jours, fin avril, dans le plus grand secret, ça j'adore. Moins d'une demi-douzaine de personnes étaient dans la confidence côté M6 et l'animateur n'a prévenu les dirigeants de France Télévisions que le matin même. Aïe. Ça grogne un peu du côté du service public. On ne nous a pas vraiment laissé le temps de faire une contre-offre. Voilà. Bon. De toute façon, bon, il a un peu claqué la porte, quoi. Ce coup de force explique la réaction glaciale de sa productrice, Alexia Laroche-Joubert, qui produit notamment Fort Boyard, qui a confirmé sans l'once d'une émotion qu'Olivier Mine serait bien aux manettes de la saison de Fort Boyard dont le tournage doit débuter ce mardi. Le gars s'en va, mais il va tourner, là, à partir de mardi, les épisodes. Voilà. En vrai, pour lui, ça va pas être facile à vivre, force. Voilà. En général, on remplace au pied levé l'animateur qui part comme ça, mais là, c'est impossible parce que... c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui puisse le remplacer. Cyril Ferraud en rêve depuis toujours de présenter Fort Boyard. Mais là, il est hyper occupé, Cyril Ferraud. Il n'est pas dispo. Donc, Olivier Mine va pouvoir dire au revoir à la fin de l'été à l'émission qu'il présente depuis 22 ans. Mais quelle mouche l'a piqué ? Ah ! Pourquoi Olivier Mine a quitté une entreprise où il était depuis plus de 30 ans, France Télévisions, et ses proches se confie un peu aux journalistes. C'est quelqu'un de très affectif. Il ne se sentait pas aimé par la direction qui avait déclaré la guerre aux hommes blancs de plus de 50 ans. Vous savez que ni Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, ni Stéphane Cidbon-Gomez, le grand patron des programmes, ni Alexandra Redamiel, la patronne des divertissements, ne sont jamais venus sur le fort en rage à proche de l'animateur qui se souvient que son ami avait été très perturbé par la façon dont les dirigeants de France Télé avaient éconduit Laurent Ruquier en 2003 après les années de collaboration. Je crois que Alexandra Redamiel, c'est faux, je crois qu'elle est allée sur le Fort Boyard. Voilà. Et qu'ils avaient des contacts. J'ai lu ça ailleurs. En début d'année, Olivier Mine avait vu Nagui, son autre producteur, reprendre les rênes du club des Invincibles, émission qu'il avait lancée pourtant quelques mois plus tôt. Pas un drame, bien sûr, il n'y a pas de mort d'homme, mais une vexation de plus pour celui qui ne s'estimait pas reconnu à sa juste valeur. Voilà. Décision symptomatique pour l'éternel second rôle qui passait toujours après les vedettes, fût-ce-t-elle de passage. On ne répondait pas toujours à ses SMS et ses nouveaux projets étaient systématiquement confiés à d'autres. Donc, bon, moi je ne connais pas toute cette histoire, mais ce que nous dit Le Parisien, c'est que Olivier Mine ne s'estimait pas reconnu à sa juste valeur et qu'il ne s'estimait pas très bien traité, peut-être au niveau des projets... Putain, mon taxi est déjà là ? Putain, mon taxi est déjà là. Pas très bien traité par son employeur. Alors, en termes de projets qu'on lui confiait, par rapport à ses ambitions et peut-être sur un plan salarial aussi, je sais pas. Ouais. Et il a touché d'être considéré par M6, quoi. Bon, alors moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je sais. En tout cas, ce que je peux vous dire, ça, je le sais, c'est que le mec est super. C'est, je vous le disais tout à l'heure, pendant le sommaire, c'est un excellent animateur. Il a un talent incroyable. Il a une finesse dans l'animation, dans le maniement de l'humour. Il a des vrais talents de comédien que moi, je n'ai pas. Le mec est formidable. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai croisé à plusieurs reprises, notamment quand j'ai fait Fort Boyard, 5 fois. Et voilà, le mec, il est très bon. C'est un grand professionnel et c'est un vrai gentil. Voilà. Donc j'aime bien ce gars, quoi. Voilà. Donc c'est une vraie perte pour France Télévisions. Bon, après, c'est bien aussi de se réinventer, de se lancer de nouveaux défis, de changer d'horizon. Donc c'est bien aussi de faire de nouvelles choses. Donc peut-être que pour Olivier, ça va être aussi d'autres opportunités professionnelles, d'autres trucs. Voilà. Mais c'est une perte pour France Télévisions. C'est une perte pour France Télévisions. Après, il n'aura pas tellement laissé l'occasion de faire une contre-offre, d'après ce que dit France Télévisions aussi, quoi. Alors, j'accélère très très vite, puisque mon taxi est déjà là. Là, j'ai un rendez-vous de boulot à l'autre bout de Paris. Et puis, j'enchaîne cet après-midi avec autre chose. Avec un grand GG, je dois dire, à un monsieur. Sur une histoire de marathon et de mucoviscidose. C'est dans Le Monde, page 34. C'est incroyable, cette histoire. L'histoire est très belle. Est-ce que les salariés de France Télévisions sont des fonctionnaires plus de service public? Non. Il y a un statut de l'audiovisuel public, mais ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils sont absolument pas protégés. Enfin, ils ne sont pas fonctionnaires, quoi. C'est page 34. Je dois pas être sur la bonne édition du Monde. Voilà. Hop. Oui, j'arrive, monsieur le taxi, j'arrive. C'est dingue, ça. J'arrive, monsieur le taxi. Voilà, je l'ai. C'est là. Bon. Hop, je vais très vite. Ah non, c'est en capture d'écran, sinon vous l'aurez pas. Hop. Ah, je l'ai pas capturé. Attends, je vais être en retard. Hop. Moi, je vais faire un grand GG à ce monsieur. Hop. Il est 58. Oh, j'aurai pas le temps. Oh bon, je vous le mets de côté. C'est une histoire incroyable. Promis, je crois que je vais faire une revue de presse demain matin. C'est un monsieur qui a la mucoviscidose, mais qui va mieux avec les nouveaux médicaments et les nouveaux traitements. Là. Il a 42 ans et il vient de faire 42 marathons d'affilée en 42 ou 45 jours. C'est une folie. Donc je vous le mets de côté. Je crois qu'il y aura une revue de presse demain, de toute façon. Je me dépêche de faire un raid. On se retrouve pas cet après-midi. J'ai réunion sur réunion, puis j'emmène mon petit chez l'orthophoniste. Mais je vous retrouve ce soir, 21h, 21h30. Merci pour le petit message, vous êtes trop cool. Et on va voir qui est en live. Ce soir, c'est du Call of Duty, c'est ça? C'est ça le jeu? Call of Duty. Comme ça. Il y a Étoile, je sais pas depuis combien d'heures il est en live. Il est sur. J'ai l'impression qu'il fait du cast. Sur Smash, là. J'aurais quitté en live, mais un petit raid vers Rayou serait pas mal, en vrai. Allez, on fait ça, hein. Ah, il y a Jardy Stream qui est en live aussi. Ah ouais, c'est bien aussi, Jardy. Ouais, mais bon, le Rayou... Allez, Jardy Stream, de toute façon, il est dans mes. Je le follow, hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le follow, Jardy Stream, je le vois pas, non mais. On l'avait déjà raid et c'est un mec super. Allez voir Jardy Stream, comme ça se prononce. C'est, je le follow déjà. Là, on va raid mon Rayou que j'ai interviewé dans MVP il y a pas longtemps, là. Il a pas vraiment besoin de force, hein. Il y a un milliard de personnes chez lui, mais c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais n'hésitez pas à aller voir aussi le monsieur qui fait du jardin, là. Qui est assez incroyable, Jardy Stream. Voilà. Hop, je vous envoie le live, le raid. Je vous retrouve. Yades, Jardy Stream a 170 viewers, c'est dommage. Moi, j'ai raid Jardy Stream. T'as raid Jardy Stream, toi? Non. Il y a des autres streamers qui ont raid Jardy Stream, je sais pas. Moi, je raid tout le monde, tout le temps. Je raid tous les jours depuis 5 ans. Ne me faites pas des procès de raid. Sérieux, pas moi. Chouchou. Hein. Donc là, j'ai un pote qui s'appelle Rayou. Il est en live, je le raid. Hein. C'est dingue, ça. Je peux faire qu'un raid. Bordel. C'est fou, ça. Est-ce que. Bon, S'il y a bien quelqu'un qui raide ici, c'est moi. Hein. Bande de chouchous, va. Allez, à ce soir, je vous aime.
Et vraiment. Oh. Bon. C'est peut-être la fin. Hein. Comment il va, Samuel? Merci beaucoup pour le raid. On casse le plus grand.